Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Grand merci, cher Pierre Donnier, pour votre invitation. Je salue à travers vous Pierre Genelletti, qui m'a très aimablement invité à parler devant vous aujourd'hui dans le cadre de la société. C'est pour moi un immense honneur de partager ce moment avec vous, parce que c'est vrai que nous nous connaissons avec Pierre Donnier depuis longtemps, depuis maintenant, j'allais dire, au moins un quart de siècle. Ça remonte effectivement à avant-hier, pas tout à fait hier, mais... Et donc, c'est vrai que c'est pour moi, vous l'avez dit, un moment très fort, parce que j'ai un attachement particulier à la Maurienne, d'où était originaire mon père. Et puis, j'ai énormément de plaisir chaque année à proposer avec mon frère jumeau et une petite équipe à Mont-Sapé. Nous avons un énorme plaisir à proposer une saison culturelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet finalement tout à fait particulier, puisqu'il y a 5 ans en arrière, j'aurais été bien en peine de vous dire quoi que ce soit là-dessus. C'est un sujet que je ne connaissais pas. Je n'en ai jamais entendu parler dans le cadre de mes études d'histoire, et comme Pierre Donnier vous l'a dit, je préparais à ce moment-là la soutenance d'une thèse de doctorat en sciences humaines, du politique et du territoire. Nous étions en 2015, donc il y a 4 ans tout juste, et à ce moment-là, je m'apprêtais à boucler mon travail de recherche sur un thème qui n'a absolument rien à voir avec celui dont je vous parle cet après-midi, qui concernait plutôt les dynamiques territoriales. Je m'inscrivais dans ce qu'on appelle la micro-histoire, et je travaillais très précisément sur la porte de la Maurienne, et plus précisément la rive droite de l'Arc, le massif du Grand Arc et de la Lozère. Et puis j'étais extrêmement étonné, surpris même, de ne pas trouver beaucoup d'archives concernant la période la plus contemporaine du Fort d'Eton. J'avais eu l'occasion, au cours des 3 années qui avaient précédé ma soutenance, de me balader dans différentes bibliothèques, de regarder un petit peu ce qu'on pouvait trouver, et j'étais quand même assez étonné de ne pas trouver d'archives, alors que j'avais le souvenance, dans ma toute petite enfance, d'un drapeau tricolore à cet endroit. L'autoroute n'existait pas, nous venions jusqu'en Maurienne avec mes parents, et je me souvenais qu'il y avait effectivement à cet endroit des militaires. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'archives? Et j'ai eu la surprise à ce moment-là d'utiliser les moyens de communication que nous connaissons tous, Internet. Et je dis surprise parce que le mot « Eton » est sorti dans le cadre d'un réseau social, et des gens qui se définissaient en tout cas comme des militaires conversaient et utilisaient l'expression « bagne d'Eton ». Et là, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, vous savez, on trouve de tout sur Internet, donc j'étais extrêmement prudent. Et puis, de fil en aiguille, au fil des semaines et des mois qui ont passé, je me suis dit que il fallait quand même creuser cette histoire, parce que l'évocation des tons était de plus en plus récurrente au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches. Et à ce moment-là, nous sommes au tout début de l'année 2015, donc ma thèse est quasiment finie. À ce moment-là, je découvre avec une énorme surprise, sur un site de vente par correspondance, un manuscrit qui a un certain coût, qui n'était pas très éloigné du millier d'euros. J'avais acheté déjà beaucoup de livres par correspondance dans le cadre de mes travaux de thèse, mais celui-là m'interpellait parce que d'abord je ne le connaissais pas, il s'appelait « J'ai été disciplinaire au Fort d'Eton », il s'agissait d'une pièce unique visiblement, le vendeur ne disait pas grand-chose, mais avait publié 2 pages dactylographiées qui étaient extrêmement fortes et qui, je dois vous le dire, m'ont complètement bouleversé. Ces pages étaient agrémentées de quelques dessins qui illustraient, ce que je sais maintenant, un camp de travaux forcés. Et l'auteur, que je ne connaissais pas du tout, s'appelait Arsène Altemeyer. Alors, j'ai senti là qu'il y avait un sujet qui était tout à fait étonnant. Et ma première réaction a été de me tourner vers l'université, vers le président de l'université Savoie-Mont-Blanc, Denis Varachin, qui avait accepté très aimablement de diriger mes travaux. Et puis nous nous sommes entretenus et il m'a vivement conseillé d'aller vers la conservation du patrimoine parce que je sentais que là, il y avait un document qui méritait d'être connu du grand public. Et donc, je suis allé vers le directeur des archives départementales de la Savoie, conservateur du patrimoine, qui a effectivement accepté d'acquérir ce manuscrit. Et j'en ai été ravi tout de suite parce que je me suis dit, c'est un document pour l'histoire très probablement. Et lui-même me disait également qu'il n'avait pas beaucoup de sources sur ce sujet. Donc, le manuscrit d'Arsène Altemeyer, depuis le printemps 2015, a intégré les collections publiques des archives départementales de la Savoie. Alors, comme je vous disais, j'étais en fin de travaux de recherche, donc je n'avais pas eu le temps encore de mettre vraiment le nez dessus. Je savais qu'il existait, j'ai exploité tous les documents dont j'avais besoin, mais... En fin de thèse, j'ai quand même rédigé 45 pages sur ce sujet en allant vers des sources très variées au-delà de ce simple manuscrit, puisque effectivement, au moyen d'Internet, j'avais pu déjà à ce moment-là recueillir un certain nombre de documents. Et j'ai soutenu ma thèse donc en automne 2016, au mois de novembre 2016, le 23 novembre exactement, et j'avais devant moi des personnalités qui venaient du monde universitaire, de la recherche, qui représentaient les principales universités françaises, Paris, Sorbonne, la directrice de mon jury était, enfin la présidente de mon jury, pardon, était directrice de recherche à l'école pratique des hautes études, Sciences Po était représentée, l'université d'Artois, l'université Savoie-Mont-Blanc, etc. Tout ça dans un champ interdisciplinaire très large, avec des géographes, avec des historiens, des professeurs de lettres, etc. etc. Et sur 600 pages que faisait ma thèse, je n'avais rédigé que 45 pages sur ce sujet du bagne d'Eton. Mais c'était suffisant pour que la matinée de ce 23 novembre 2016 soit pratiquement entièrement consacrée à ce sujet. C'est un sujet qui a énormément surpris la communauté scientifique et j'ai été mitraillé de questions ce jour-là. Et à l'issue donc de ma soutenance, qui portait également sur d'autres thèmes, bien entendu, à l'unanimité, en me délivrant le titre de docteur, le jury m'a demandé de prolonger mes recherches. Et donc, c'est ce que j'ai fait depuis 3 ans. Je travaille, j'allais dire bénévolement, puisque à ce jour, je n'ai pas pu encore intégrer un laboratoire de recherche à l'université. J'espère que ça se fera dans les semaines à venir. En tout cas, ma demande est faite, parce que je crois là qu'il y a en effet un sujet de recherche qui est extraordinairement important et qui peut partir dans des directions extrêmement variées. Donc, voilà, bon an, mal an, depuis le début de l'année 2017, je travaille sur ce sujet et ma première réaction a été évidemment d'aller explorer et même exploiter complètement ce manuscrit de 413 pages qui est signé Arsène Altemeyer pour comprendre qui était cet homme. Était-il encore vivant? Et donc pendant 6 mois, j'ai fait une enquête de police, hein, on va dire ça comme ça. J'ai été extrêmement aidé par les élus de tous bords à l'échelle nationale pour retrouver Arsène Altemeyer. Et j'ai eu en définitive deux solutions. J'ai exploité les deux, puisque les deux étaient liés à la Maurienne. La première, c'était une fausse piste. Je suis tombé sur un facteur marié à quelqu'un originaire de Saint-Jean-de-Maurienne et qui vivait dans le sud de la France. Et la deuxième, c'était donc l'homonyme, je suis tombé sur Arsène Altemeyer par le truchement d'un élu qui était adjoint d'un tout petit village situé à la frontière franco-allemande, proche des Hauts-Vosges. Hein, voilà. Et très rapidement, j'ai donné mes coordonnées, j'ai expliqué qui j'étais. Ce monsieur a été évidemment surpris de savoir qu'il était recherché et assez rapidement m'a proposé de le rencontrer. Et donc, je suis monté au printemps 2017 dans les Hauts-Vosges. Et puis, je crois que nous nous sommes bien compris. C'était un peu compliqué pour Arsène Altemeyer, qui était lui-même extrêmement surpris de savoir que son manuscrit était dans les collections des archives départementales de la Savoie. Tout simplement parce que lui-même n'en avait pas fait don à qui que ce soit et certainement pas mis en vente sur Internet. Donc il a fallu que je détricote le sujet, que je lui explique qui j'étais, comment j'avais découvert ce manuscrit. Et puis je me suis senti soudain investi d'une incroyable responsabilité, puisque il fallait que nous puissions apporter toutes les réponses à ce qui semblait être quand même une sorte d'imbroglio, puisque lui-même n'avait pas mis en vente son manuscrit. Donc j'ai remonté un petit peu toute la filière, et j'ai découvert en fait que ce manuscrit avait été rédigé au début des années 70, et finalement avait été confié à ses amis, des amis qui ont fait banqueroute, avaient confié leur bien à un garde-meuble qui n'était pas payé, et donc finalement les biens de ces gens ont été vendus aux enchères. Je me suis entretenu avec le commissaire Prisard, avec l'huissier de justice qui a mené toute cette affaire. Nous étions à Beachviller en Alsace, et puis il a un très grand souvenir d'ailleurs de cette vente aux enchères, parce qu'il en organise très peu, tout simplement, on est dans une toute petite localité. Et donc ce manuscrit a été vendu au kilo avec l'ensemble des biens de ces gens-là, qui sont des cinéastes connus, les frères Waldener, Christophe et Arnaud Waldener, connus par la suite parce qu'ils ont eu des histoires avec le monde du cinéma, et notamment à propos du film que vous connaissez tous, je pense, The Artist. Christophe Waldener revendiquant notamment le scénario de ce film. Enfin, c'est une autre histoire. En tout cas, les frères Waldener se sont vus dépossédés de leurs biens, et donc le manuscrit a fait partie d'un lot, d'une caisse. Le commissaire Priseur me dit, c'était une caisse. Je ne savais pas qu'il y avait le manuscrit d'Arsène Altemeyer à l'intérieur. Et assez rapidement, ce manuscrit est passé de main en main, chez des bouquinistes, chez des antiquaires. Est-il passé entre des mains expertes? C'est une interrogation que j'ai toujours. Je n'en sais rien. C'est possible. En tout cas, quelqu'un l'a mis en vente à Paris. Et j'ai découvert que c'était en fait la librairie Gibert, Joseph Gibert. Et il était en vente, qui a un rayon bouquiniste, et qui était en vente donc sur le site eBay. J'ai été l'heureux découvreur de ce manuscrit qui finalement aurait pu passer entre les mains de n'importe qui et aurait pu disparaître aussi peut-être à tout jamais, une nouvelle fois. Je dis heureux découvreur parce que j'ai vraiment découvert un homme de culture qui est Arsène Altemeyer, et puis j'ai découvert aussi une réalité que je ne soupçonnais pas, qui m'a bouleversé, je vous l'ai dit, qui m'a beaucoup contrarié. Et puis finalement, je m'en suis remis et j'ai prolongé mes travaux. Donc ce monsieur, voilà le manuscrit tel qu'il se présentait à l'écran, j'ai découvert qu'il avait été rédigé entre 1970 et 1972, pendant 2 ans. Et j'ai découvert en discutant avec Arsène Altemeyer qu'il connaissait, mais sur le bout du doigt, les doigts de la main, un certain nombre de gens qui, pour moi, avaient aussi servi de balise dans le monde de la culture. Alors, vous allez voir défiler Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, qui a été quelqu'un qu'il a très bien connu. Alors, il y a un petit souci, là. On va revenir en arrière, si c'est possible. Alors, à moins que j'aille sur le bureau. Voilà, c'est juste ça. Pardon, excusez-moi. Donc, Jean-Louis Barrault, qui dirige le théâtre de l'Odéon en 1968... avec Madeleine Renaud, donc c'est quelqu'un qui a constitué une véritable balise pour Arsène Altemeyer, Gérard Philippe bien entendu. Pourquoi? Parce que Arsène Altemeyer a été formé au Théâtre National de Strasbourg. C'est donc un artiste, un comédien, un acteur avant tout, qui a travaillé notamment avec René Ferret, il est dans cette promotion. Il a tourné un film avec lui qui s'appelle L'homme qui n'était pas là, et il a fréquenté, comme vous le voyez sur cette affiche, Georges Descrières, Jacques Dufilot. Donc voilà Jacques Dufilot. Et cet homme, c'est celui que vous voyez sous vos yeux là, Arsène Altemeyer, qui sortait à ce moment-là du Bagne des Thons. Il est de la promotion de Yanis Kokos, qui est très connu, bien entendu, et qui a fait rayonner la culture française dans le monde. C'est le groupe 9 du Théâtre National de Strasbourg. Alors ensuite, on retrouve la trace de Arsène Altemeyer en différents lieux, dans différentes régions de France, notamment à la Comédie de Saint-Étienne, et là, il a travaillé avec Jean d'Asté. On le retrouve également au Théâtre de l'Est parisien, qui a aujourd'hui disparu, mais où il a joué à plusieurs reprises, avec Guy Rétoré. Et puis, on le retrouve avec, au Théâtre Mouffetard, avec Guénolé Azertiop, qui a été un de ses compagnons dans, notamment, une pièce d'Alfred Jarry, Ubu Roi. Voilà, Guénolé Azertiop. Et puis, à l'étranger, j'ai retrouvé le nom de Arsène Altemeyer au Théâtre Roman, avec Charles Joris. Le voici donc dans des pièces très classiques. Et puis au Théâtre de Bourgogne, bien sûr, avec Jacques Fornier. On retrouve son nom avec Michel Berthaud. Donc tous ces gens, finalement, ont marqué la deuxième partie, la deuxième moitié du XXe siècle. Et surtout, il y a évidemment la présence d'Arsène Altemeyer au Théâtre National de Chaillot. Et là, il a fait une très belle tournée grâce à Jacques Lassalle, qui est devenu sociétaire de la Comédie Française et qui en a pris même la direction. Et Jacques Lassalle a pris Arsène Altemeyer sous son aile et lui a fait faire une incroyable tournée européenne avec des classiques. Ici, vous avez la clé d'Eugène Labiche. Alors, Arsène Altemeyer, c'est le monsieur qui a le petit képi, là. Hein, c'est le monsieur qui est sur ma gauche. Et donc, il a interprété un certain nombre d'œuvres. On retrouve tout cela à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, puisque les archives de ces pièces de théâtre et de ces montages sont présents. Et puis, il a fait, bien sûr, le tour de France. Il a connu, finalement, toute la période de la décentralisation culturelle. Et à l'étranger, Berlin, toujours avec Jacques Lassalle, Bochum, bien sûr. Et puis, ses tournées l'ont emmené jusqu'à Prague, au Théâtre National de Skopje, aussi bien dans des œuvres classiques, comme je vous l'ai montré, que dans des œuvres plus contemporaines, comme celle du Scandinave Ibsen. Et on a voilà, des exemples de scènes de théâtre où on le retrouve. On retrouve également le nom d'Arsène Altemeyer au cinéma. Il a œuvré avec Jacques Doyon, Jane Birkin, avec Marouchka Detmers, avec Philippe Léotard, donc dans la presse. Et puis dans des... Alors je ne sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose qui apparaît, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc à l'étranger, on le retrouve... Alors serveur introuvable, ok, c'est introuvable. Alors, on va faire disparaître ça, voilà. Donc il faut peut-être que j'utilise les petites flèches, là, ça ira mieux. Voilà, alors donc on a le nom d'Arsène Altemeyer qui jouait le rôle d'un chauffeur de taxi dans ce film. Alors là, j'ai l'impression de revenir en arrière, donc ça ne doit pas être la bonne flèche. Voilà, ça doit être plutôt celle-là, il faut que je fasse attention. Voilà. Voilà, donc on le retrouve même dans ce film a été lauréat des Césars du cinéma avec la petite Laure Marsac. Bon, j'ai montré ces photos à Arsène Altemeyer, évidemment qu'il se souvenait beaucoup de tout cela. Puis on le retrouve à la télévision aussi, Arsène Altemeyer, chez Jacques Rouffio. Jacques Rouffio l'a fait intervenir dans un film en 93 qui s'appelle Jules Ferry. Et à ce moment-là, Arsène Altemeyer incarne le rôle du maire de Saint-Dié-les-Vosges, puisque c'était un biotype, comme on dit, hein, c'était toute la vie de Jules Ferry qui était évoquée à la télévision. Arsène Altemeyer, on le connaît par des dessins. J'en ai publié quelques-uns dans cet ouvrage. Ces dessins sont extraits pour partie de son manuscrit. Et puis, on connaît son histoire grâce à des croquis, enfin un croquis en particulier, qui est celui que j'ai exploité, bien entendu, le Fort des Tons, qu'il a représenté en 1969. En réalité, Arsène Altemeyer est quelqu'un qui a eu un vécu en 68 et qui s'est retrouvé au bagne pendant 166 jours de travaux forcés. Et bon, il parle de déshumanisation programmée, enfin c'est quelque chose qui lui a coûté énormément dans son existence et qui l'a complètement déstructuré. Hein. Et enfin, moi j'ai compris beaucoup de choses en interrogeant aussi des membres de sa famille et puis de ses amis. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu un parcours extrêmement sinueux et qui même au sortir de ce bagne à la fin de l'année 1969 est complètement déstructuré et très probablement, il ne me l'a pas dit, mais je le comprends, a dû, à mon humble avis, faire de nouveau de la prison. Et finalement, ce sont des gens du théâtre qui l'ont récupéré et qui l'ont remis sur les rails, et tardivement. Il a eu 15 ans de vide, de trou noir, comme il me dit, hein, dans son existence. Mais c'est pas un cas exceptionnel. Enfin, j'ai discuté avec de très nombreux bagnards, comme vous aurez l'occasion de le découvrir, je vous le dirai tout à l'heure, avec des petits cadres aussi, des gens qui étaient dans l'encadrement de ce bagne. Et c'est vrai que beaucoup ont eu un parcours extrêmement sinueux en sortant. Alors, donc voilà, comment j'ai découvert petit à petit ce bagne qui a fonctionné pendant 10 ans. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous représenter l'endroit où tout cela se trouve. Bien entendu, on est dans ce triangle. Dans ce triangle qui est quand même un petit peu, enfin dans un lieu qui est quand même pas forcément très fréquenté à l'époque, hein. Est-on, il n'y a pas évidemment l'autoroute, là je trace volontairement tous ces lieux, enfin tous ces trajets, parce qu'en fait, pour vous montrer que en fait tous les bagnards qui ont fréquenté Eton n'étaient pas originaires, ou en tout cas quasiment pas originaires, de la Savoie, et venaient de beaucoup d'autres endroits. Aujourd'hui, quand je les retrouve, je vais à leur recherche. Ils sont dans toutes les régions de France et certains même vivent à l'étranger, ont décidé de quitter l'Hexagone. Alors cette photo que vous avez sous les yeux, elle a été prise en 2000. C'est une photo qui a été prise dans un ouvrage sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Pierre Fort en Savoie, qui a été publié à ce moment-là, au tout début des années 2000. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que après la publication de ce livre, donc il y a 6 mois, beaucoup de gens m'ont téléphoné, m'ont envoyé des mails, m'ont envoyé aussi des photos, ont voulu témoigner. Et donc mon rôle là depuis 3 ans, et puis ça s'est un peu accéléré au cours des 6 derniers mois, mon rôle est de confronter tous les documents, de vérifier point par point tout ce qui m'est soumis. Parce que parfois j'ai un peu l'impression aussi qu'on m'en fume, donc je fais très attention. Et donc, j'ai retrouvé par exemple ces photos et qui m'ont un peu déconcerté, parce que vous voyez là sur la partie gauche, pardon, c'est inversé, sur la partie gauche vous voyez une guérite, hein, ici avec des hommes qui ont l'air un petit peu inquiétants et qui sont en train de surveiller quelque chose, hein. Et puis ce qui m'intriguait, c'était cette rampe d'escalier qui aujourd'hui n'est plus du tout visible. Voilà, bon, des exemples. J'ai fait une véritable archéologie du fort avec des acteurs, hein, plusieurs fois, en 2017, en 2018. Bon, j'ai fait venir Arsène Altemeyer sur les lieux, bien entendu. J'ai fait venir aussi d'autres bagnards. J'ai fait venir des petits cadres. Enfin, et puis des gens, tout simplement, qui vivaient sur place, hein, et on a exploré les lieux. Et quand on voit cette image qui est justement publiée dans le livre Pierre Fort en Savoie, qui est une vue du ciel, à une époque où il n'y a pas encore de drone, donc on est avec une vue d'hélicoptère, on remarque très bien, hein, cette montée d'escalier qui est là, en fait. Hein. Voilà. Donc voilà dans quel esprit je travaille. Et vous connaissez bien sûr le fort aujourd'hui. Cette photo a été prise au printemps dernier. Alors, je me suis bien entendu demandé comment est-ce qu'on a pu parler d'un bagne en Savoie. Moi-même, je n'y croyais pas, hein, il y a encore quelques années, en 2015-2016, j'évoquais évidemment scientifiquement les choses au regard de toutes les sources que j'avais découvertes au moment de la présentation de ma thèse, mais j'avais quand même bien du mal à comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce phénomène. Et puis, en poursuivant mes recherches, j'ai découvert en fait que ce camp de travaux forcés qui est installé en Savoie s'inscrit dans la lignée des bagnes coloniaux. Et en fait, ces bagnes coloniaux qui existaient depuis le 19e siècle et qui ont été bien étudiés, j'aurai l'occasion de vous le redire tout à l'heure, en fait, c'est l'aboutissement de toute une histoire qui est celle des bagnes coloniaux. Et juste avant Eton, il y a Tim Fushi. Alors, vous trouverez, si vous cherchez le nom de Tim Fushi, plusieurs orthographes. On le met avec un N ou avec un M. Moi, je l'ai respecté ici parce que je l'ai trouvé comme ça dans une revue qui s'appelle Guerre d'Algérie Magazine, qui a été publiée il y a peu de temps. Et l'auteur de cette recherche, c'est un professeur, Jean-Charles Geoffrey, à l'université d'Aix-en-Provence, plus exactement à Sciences Po Aix-en-Provence. Et donc, il a étudié le bagne militaire de Tin Fu Chi. Et moi-même, j'ai fait le lien avec ce qui suit, puisque en fait, j'ai retrouvé des bagnards dans différentes régions de France qui, et ça c'est absolument une aubaine 50 ans après, plus de 50 ans, on est sur 60 ans après, qui ont vécu la translation à Eton et qui sont aujourd'hui encore vivants et qui peuvent bien entendu en parler. Alors ce bagne de Tin Fu Chi, voilà à quoi il ressemblait. On est entre le Maroc et l'Algérie, on est en plein désert et là aujourd'hui, je vous le dirai tout à l'heure, on a des témoignages de ce qui s'y passait. Ce qui m'a intéressé quand même, c'est que ce bagne de Tin Fu Chi a été assez rapidement, donc vous avez vu la date de fondation, il a été créé au moment de l'avènement de la Ve République en 1958. Et donc il a fonctionné pendant 4 ans en Afrique du Nord, et au moment des événements de mars 62, des accords d'Évian, il fallait lever le camp, la Légion y a contribué. Et donc, les bagnards ont fait 3000 km, un grand nombre d'entre eux. On me dit des Français. Alors, je suis un peu partagé, je vous dis, à l'endroit où j'en suis dans mes recherches. J'ai un certain nombre de témoignages de gens qui me disent, dès 1958, dès 1959, on avait ouvert une section disciplinaire à Albertville, qui était donc une prison qui ne fonctionnait quasiment plus depuis l'après-première guerre mondiale, enfin l'entre-deux-guerres en tout cas, et qui avait été donc réouverte. On avait là réinstallé une section disciplinaire à Albertville. Et il semblerait, d'après les témoignages que j'ai, je n'ai pas trouvé d'écrit, hein, je vous le dis encore, il semblerait, d'après ce que j'entends, que des félagas étaient faits prisonniers en Afrique du Nord et venaient remettre en état, à partir de 1958-59, le fort d'Eton. Et donc, des personnalités de l'encadrement, on me dit aussi, logeaient chez l'habitant. Là encore, je suis extrêmement prudent, je n'ai pas de traces écrites de ce que je vous rapporte, c'est simplement un véhicule oral. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que à l'Assemblée nationale, on n'est pas à l'Assemblée nationale, ce que vous voyez, c'est le Sénat. Au Sénat, excusez-moi, donc au Parlement quand même, à Paris, dès l'été 1959, des parlementaires s'expriment au sujet du bagne de Tin Fu Chi. C'est le nom d'un nouveau bagne militaire qui prend la relève de l'ancien Biri. Voilà ce que dit Louis Nami devant ses collègues sénateurs. Donc vous voyez que le mot bagne, c'est évidemment pas moi qui l'utilise, on le trouve dans les archives, et des archives extrêmement anciennes. Ensuite, on a de nouveau ce genre d'intervention, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, on est au mois de décembre 1959, un autre sénateur prend la parole devant ses collègues, Raymond Guyot, et dit « Nous voulons encore renouveler ici notre protestation contre les camps disciplinaires du type de Tin Fu Chi. » Et alors, ces gens sont transportés en silence, entre guillemets, dans notre région, parce qu'aucun Savoyard n'est particulièrement informé, bien entendu, et on comprend pourquoi, vous comprenez évidemment pourquoi. Donc ils font une translation de 3000 km, ils vont jusqu'à Merzelkébir, ils traversent la Méditerranée, et puis ils sont transportés. Alors là, on a plusieurs descriptions. Ils sont transportés en camion sous des bâches, évidemment fermées, et ils arrivent à Eton. Alors, ils arrivent dans un endroit qui est effectivement un peu encore un no man's land. L'expert de l'histoire de la Maurienne, et il y en a parmi vous, je le sais, savent que, bien entendu, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens, puis les Allemands et finalement les résistants ont occupé le fort d'Eton. Et donc, en dernier recours, il avait sauté, hein, en tout cas il avait été dynamité pour partie, et donc c'était vraiment un no man's land. Enfin, on a des témoignages, j'en ai eu encore le mois dernier. Il n'y avait pas d'huisserie, par exemple, et ce n'était pas un lieu habitable. Pour autant, les bagnards donc sont installés à cet endroit, et il semblerait justement que quand les choses se font, on est en 1962, en automne 1962, il semblerait qu'il n'y ait plus de Felaga. Hein, j'ai eu un témoignage très récent de quelqu'un qui vit dans le sud de la France et qui a été justement du convoi et qui me dit qu'il n'y avait que des Français. Bon, voilà. Donc, combien étaient-ils ? Je n'ai pas de statistiques, malheureusement. J'en trouverai, j'espère. Mes travaux m'ont conduit jusqu'à Paris, bien sûr, au ministère de la Défense, aux archives de Vincennes. Mais à ce jour, au moment où je vous parle, je n'ai pas retrouvé de statistiques. En revanche, nous avons des documents qui peuvent être confrontés, notamment les sources de l'INSEE. Là, j'ai retrouvé ce document. Et parmi la population comptée à part, on a 138 personnes à Eton sur à peu près 400 personnes. Hein, au total, ça fait 550 habitants, dont ces 138 qui habitent le fort d'Eton. Alors, combien de bagnards, combien d'encadrements bon. Je pense qu'il y avait entre 70 et 80 au maximum. Certains témoignages me disent on frôlait la centaine à certains moments pendant cette décennie. Mais globalement, en tout cas, quand on fait l'archéologie du fort, on regarde où sont les chambrées. Elles sont très précisément à l'endroit où on a accédé ces dernières années par un escalier pour gagner ce qui est devenu un restaurant et qui est aujourd'hui fermé. Il y avait effectivement... on va dire entre peut-être 70-80 personnes réparties, en tout cas bagnards, réparties en trois sections. Et puis il y en avait qui vivaient un petit peu derrière, un petit peu en haut du fort. Pour connaître cette période également, on a des objets. Et parmi les objets qui sont intéressants, il y a celui-là, qui est en fait l'insigne du bagne d'Eton. Alors, on ne parlait pas, l'armée évidemment ne parle pas de bagne, ne parle pas non plus de camp de travaux forcés, on imagine bien, mais utilise une autre expression, on est sur la compagnie spéciale, donc une compagnie et non plus une section comme tout à l'heure à Albertville, on est sur une compagnie spéciale des troupes métropolitaines. Cette compagnie, elle a été mise en œuvre par Pierre Messmer, qui est, je pense que Pierre Messmer est vraiment l'homme de la CSTM, puisqu'il est ministre de la Défense jusqu'en 1969, et je vous le dirai dans un instant, à partir du début des années 70, on voit les choses un petit peu évoluer. Je crois qu'il y a trois personnes importantes à la tête de l'État qui sont susceptibles d'être informées, ou en tout cas leur entourage est susceptible d'être bien informé au sujet de ce qui se passe à Eton. On me fait souvent remarquer qu'à la tête du pays, il y a un militaire, le général de Gaulle. Certains bagnards disent qu'il était au courant, d'autres disent qu'il ne savait rien. Et puis, il y a évidemment deux personnages que j'ai nommés, Pierre Messmer et Michel Debré. Quand l'un est Premier ministre, l'autre est ministre de la Défense, et vice-versa. Mais les choses ont évidemment évolué. Alors, étaient-ils informés vraiment au niveau de leur cabinet de toutes les tenants et les aboutissants ? C'est une question que je pose. Je n'ai évidemment pas la réponse, puisque vous comprenez bien qu'en 3 ans, je n'ai pas pu explorer toutes les archives des cabinets ministériels. Mais il conviendra d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi, ce que je comprends, quand je discute avec des militaires engagés, des militaires professionnels, mais aussi des militaires qui se sont retrouvés là par hasard, les appelés du contingent, ce que les bagnards appelaient les petits cadres, et entre eux, d'ailleurs, ils s'appelaient aussi petits cadres parfois, ce que je comprends, c'est que cette armée, elle est extrêmement divisée, et qu'en réalité... il faut tenir compte pour expliquer les événements d'Eton du contexte historique sur lequel je n'ai pas le temps cet après-midi d'insister, mais pour autant je vous ai parlé de la guerre d'Algérie, il ne faut pas oublier non plus le putsch des généraux, il ne faut pas oublier l'OAS, il ne faut pas oublier ce contexte extrêmement particulier dans lequel la France se trouve au tout début des années 60. Donc ici vous avez sous les yeux ce qui est devenu l'insigne du bagne d'Eton, ça paraît très surprenant, mais vous avez effectivement un croissant. Vous avez les sables du désert, vous avez le sabre, vous avez un scorpion. Hein. Nous sommes avec un insigne qui n'a rien à voir avec les Alpes, et pourtant nous sommes installés en Maurienne. Et cette phrase qui est écrite en arabe, je l'ai fait traduire, elle va vous surprendre. Il y a deux traductions, on m'a donné deux traductions, je ne sais pas l'arabe. « Adieu la vie », c'est la première traduction qui m'a été faite, ou « Ici s'arrête la vie ». Et un certain nombre de bagnards disent que tout cela était inscrit à l'entrée du fort, J'ai l'impression que ça n'a pas duré forcément 10 ans, mais à un moment, certains témoins, certains mêmes acteurs de ce bagne des thons disent qu'il y avait cette inscription à l'entrée. Alors, on connaît l'histoire parce que, évidemment, tous les témoins constituent une forme de mémoire, si vous voulez, et mon rôle d'historien est d'essayer de voir où est la vérité, où sont au contraire les erreurs, et j'essaie de reconstituer l'itinéraire de chacun, c'est compliqué, mais malgré tout, je comprends bien que des bagnards sont arrivés par le train à Eton, et j'en ai eu confirmation ici même, à Hermillon, au salon où j'étais il y a quelques semaines. Une dame est venue me raconter qu'elle fréquentait son mari Morganet à ce moment-là, et bizarrement, le train, la Micheline, me disait-elle, s'arrêtait en gare d'Étonbourg-Neuf, et c'était chaque fois, me disait-elle, elle fréquentait son mari le Savoyard, c'était chaque fois pour déposer quelqu'un. Et avec une prise en charge derrière, elle me parlait de gendarmes. Je pense qu'il s'agissait aussi, et d'autres témoignages sur Saint-Pierre d'Avigny, il s'agissait aussi évidemment de militaires du fort d'Eton. Nous avons des témoignages de translation par avion. Il y a des gens qui ont été emprisonnés ici à Eton et qui venaient des îles, Mururoa, Tahiti, enfin, on trouve des exemples. La base du Bourget du Lac servait évidemment d'arrivée. Et puis d'autres bagnards sont arrivés en Savoie à Eton en canot. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des petits cadres qui se souviennent. Certains d'entre eux ont besoin de communiquer. J'ai parfois, au bout du fil, des gens chez qui je réveille des souvenirs, et parfois, aussi bien du côté des bagnards que du côté des petits cadres, j'ai des gens en larmes. J'en ai un, pardonnez-moi l'expression, qui m'a dit la semaine dernière, « Eton, c'était une ambiance de merde. » Et c'est un petit cadre qui disait ça, et quelqu'un qui a fait toute sa vie professionnelle dans quelque chose qui ressemble beaucoup à l'armée, chez les pompiers. Et ils ont besoin de parler, de publier, de dire ce qu'ils ont enduré. Et cette photo a été publiée sur Internet, justement, par un petit cadre. Alors, on y voit le fort, elle date probablement de 1963 ou 1964. On y voit un pont Bel Air. Hein, je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, ce fort d'Eton est particulièrement dégradé. Et puis, on y voit des chiens de guerre, qui venaient soit de Tarbes. Là aussi, ce n'est pas très net. À certains moments, il y a une compagnie du côté de Meximieux, j'ai retrouvé ça dans les archives également, qui vient à Eton avec des chiens de guerre. Visiblement, ça ne s'est pas fait immédiatement. Hein. Il y a eu un temps de d'installation. Voilà. Alors, on a très peu de photos, en fait, hein, de ce fort d'Eton pendant cette période. Donc, les photos que je vous montre viennent des archives communales d'Eton. Donc, ce sont des photos post-bagne. Hein, je vous montrerai la chronologie tout à l'heure. Il n'y a pas eu que cela, bien entendu. Une compagnie tout à fait régulière a été installée dans ces murs après la disparition du bagne. Mais voilà, ce qu'il en reste, là, on est au moment où Charles Hernu, ministre de la Défense, vend ce fort, et la vente a été faite au profit de la commune d'Eton. Alors, vous voyez, c'est pas facile d'avoir des informations sur tout ce qui s'est passé, parce que finalement, il n'y a pas d'histoire du bal, l'histoire n'est pas écrite, elle est en train de se faire seulement, mais je pense qu'on est au début. Et je crois que 50 ans après la fermeture de ce bagne, un demi-siècle, il est très important aujourd'hui de garder cette mémoire pour justement apporter des éléments de compréhension. Alors quand on va vers la presse, Le Monde par exemple, dès octobre 1963, donc là on est sur Paris, et on voit le procès de deux déserteurs devient celui des méthodes employées à la compagnie disciplinaire du fort d'Eton. Donc ça veut dire que sur Paris, il y a déjà des retours, hein, le bagne est arrivé en Savoie en 62, et que déjà, au bout de quelques mois, un an plus tard, on connaît déjà des choses qui se passent, qui sont étranges au regard d'un certain nombre de gens dans ce fort d'Eton. Également, on a des informations, j'ai retrouvé un document qui a été publié par des gens qui commencent à être objecteurs de conscience. C'est cette période, hein, 63-64. Donc là, on est en juillet 64. On a des objecteurs de conscience qui diffusent ce genre de documents avec des polycopiés, enfin du matériel pas très développé, mais enfin, malgré tout, ils diffusent leurs idées sous cette forme. Et j'ai retrouvé, alors cette fois-ci, on n'est plus sur Paris, on est sur Lyon, j'ai retrouvé un témoignage important de quelqu'un qui s'appelle Michel Tachon, qui était lui-même objecteur de conscience et qui a contribué à fonder un groupe d'action et de résistance à la militarisation qui s'appelle le GARM, qui est né officiellement en 67. Et c'était un groupe de soutien aux renvoyeurs de livrets militaires. Et donc là, on a des jeunes qui sont hostiles à l'armement nucléaire, notamment parce que finalement, dans leur combat, on a aussi cet aspect-là, au-delà du fait de ne pas vouloir faire le service militaire. J'insiste très lourdement sur le fait que tous les bagnards qui sont à Eton ne sont pas des objecteurs de conscience. Il y en a une petite partie. Qui est à Eton, finalement ? Les gens qui sont à Eton, on a plusieurs voies pour parler d'Eton. On a les militaires. Les militaires, eux, nous disent ce sont des têtes brûlées, ce sont des gens qui avaient fait les 400 coups, ce sont des gens qui, déjà dans le civil, souvent, avaient fauté et qui, finalement, commettaient des fautes réitérées à partir du moment où ils étaient sous les drapeaux. Et de fait, ces gens-là étaient traduits en justice, donc ils passaient par ce qu'on appelle le TPFA, il y en avait plusieurs en France, dans différents points de France, et ils faisaient leur temps d'emprisonnement, c'est-à-dire que le tribunal les condamnait, ils étaient donc jugés, condamnés, ils purgeaient leur peine, et au moment où ils pensaient sortir, c'est le cas d'Arsène Altemeyer dont je parlais tout à l'heure, mais de tous les gens que j'ai rencontrés, au moment où ils pensaient sortir de la prison où ils avaient été mis, parce qu'ils avaient fauté, eh bien, en réalité, ils étaient envoyés à Eton sans le savoir. Et personne ne leur disait ce que c'était que ce camp d'Eton. On leur disait, la CSTM, oui, peut-être la discipline est un petit peu plus importante, mais tu verras, c'est intéressant pour toi, etc. Enfin voilà, tous les disciplinaires me disent cela, tiennent ce discours, et en fait, ils ont compris bien après coup, en écoutant toujours la voix de l'armée, que comme ils avaient purgé une peine de prison là où ils se trouvaient, donc c'est Carcassonne, c'est Metz, le Cambou, etc., eh bien, ils devaient à l'armée encore un certain temps, et il fallait donc qu'ils consacrent ce temps à l'armée, et donc c'était le camp disciplinaire. Mais en réalité, quand on entend d'autres voix, et quand on compare un petit peu les statistiques, on s'aperçoit que rien n'était écrit. Ce n'est pas parce que une personne avait passé 6 mois en prison qu'elle devait 6 mois à l'armée. Certains restaient bien plus, d'autres moins. Hein. Donc les choses ne sont pas aussi claires que ça. Et puis, quand on parle effectivement de toute cette population qui est au rebut, si j'ose dire, enfin en tout cas qui est mise en prison, eh bien, c'est une population, certes, il y avait bien entendu des proxénètes, il y avait des truands, hein, il faut le dire clairement, mais il y avait aussi toutes sortes d'autres individus, et j'en ai retrouvé un certain nombre. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué des gens qui gravitaient dans l'entourage de l'OAS. Ben oui, il y a des gens qui se retrouvent à Eton tout simplement parce qu'ils se sont engagés dans l'armée, parce qu'ils vivent en Algérie et ils ne comprennent pas, au moment des événements, pourquoi, à un moment, la France dit autodétermination et forcément, il faut partir. Et ils ne veulent pas partir. Et j'ai le cas très précis de quelqu'un qui était ami du général Jouhaud et qui s'est retrouvé à Eton pendant un certain temps et qui, évidemment, en a été plus que traumatisé. Il est revenu dernièrement, là, cette année, à Eton. Ça faisait plus de près de 60 ans, en tout cas, qu'il n'était pas revenu. Il a voulu venir avec son petit-fils et il a voulu lui montrer. Hein, il a voulu faire l'archéologie du fort avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y avait à l'opposé, sur l'échiquier politique, des gens qui n'ont rien à voir avec l'OAS, qui ensuite ont gravité un petit peu, ces gens-là ont gravité un peu dans des milieux très conservateurs et ultra à droite. Mais à l'opposé, sur l'échiquier politique, on trouve aussi des communistes. des gens qui, eux, sont engagés non pas contre l'armée, mais contre la guerre d'Algérie. Et il y en a un certain nombre. Hein. Et puis, bien sûr, on a des gens qui sont, vous l'avez vu, objecteurs de conscience, donc qui, eux, défendent encore une toute autre cause. Et puis, on a tout simplement des gens qui n'ont rien à voir avec une organisation quelle qu'elle soit, et c'est le cas d'Arsenal Tonnelière. C'est un intellectuel, c'est un rigolard, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui est un amuseur public. Et finalement, il a amusé l'armée. Ça n'est pas du tout passé, bien entendu, et on le comprend. Donc il a été jugé tout à fait normalement comme les règles le prescrivaient. Il a purgé sa peine et puis il s'est retrouvé pendant 166 jours dans ce bagne et qu'il décrit comme un véritable enfer. Alors, voilà un petit peu ce que je peux vous raconter sur Eton. Je répondrai à vos questions tout à l'heure. Je voudrais vous montrer maintenant comment ce bagne disparaît. Ce bagne n'a pas disparu comme ça du jour au lendemain. Il a fallu du temps. J'insistais tout à l'heure sur la date de 1969, période où Pierre Messmer quitte le pouvoir. Pierre Messmer, c'est quand même un militaire aussi, hein, qui était très lié à la Légion, on le sait, et donc probablement qu'il avait des conseillers aussi autour de lui pour l'inviter à faire fonctionner la CSTM. Un personnage nouveau arrive à la Défense, c'est Michel Debré. Et Michel Debré débarque probablement avec ses conseillers politiques, et là, les archives nous le diront. Enfin, moi, je n'attends qu'une chose, c'est ouvrir les archives des cabinets ministériels pour comprendre, parce que forcément, il y a des sources. 50 ans après, enfin, demi-siècle après, on va découvrir des choses. C'est pas possible autrement. Donc, ce que j'observe au moment où je vous parle, c'est que au tout début de l'année 70, Michel Debré est informé de ce qui se passe. Et vous allez le voir. Donc, il est informé, il reçoit cette lettre qui vient de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme. Et il est informé en décembre et il répond assez rapidement en janvier 70, hein, le ministre d'État chargé de la défense. Alors, je vais peut-être mettre mes lunettes parce que on voit très bien à l'écran. Excusez-moi. Je vais quand même vous lire le contenu de sa réponse parce que il y a une autre réponse derrière. Donc il dit « Je puis enfin vous faire savoir qu'aucune brimade n'est exercée à l'encontre des disciplinaires. Régie par une réglementation particulière, les méthodes de commandement sont obligatoirement strictes, mais les sévices corporels en sont totalement exclus. » Alors qu'on a quand même des témoignages très différents par ailleurs. Le plus grand soin est apporté dans le choix de l'encadrement. En résumé, je suis en mesure de vous assurer qu'aucun grave problème ne se pose actuellement à la compagnie spéciale des troupes métropolitaines. Et c'est signé Michel Debré. On est en janvier 70. Il vient de prendre ses fonctions il y a quelques semaines. Et je pense que dans les cercles d'état-major, il faut du temps pour que les gens s'installent. Et je dirais... On a vécu les événements récents avec Emmanuel Macron succédant à François Hollande. On a vu que, voilà, parfois, au sein de la hiérarchie et à un très haut niveau, il y a des problèmes qui se posent. Et en observant cet aspect, je me suis demandé si ce n'était pas peut-être la même chose qui s'était produit à propos de la transition entre Pierre Messmer et Michel Debré. Mais là encore, les archives nous renseigneront très probablement dans les mois et les années à venir. Ce que j'observe également, c'est que des juristes se penchent sur le cas des disciplinaires. Ils se mobilisent. En 1970, on retrouve par exemple le cas de cet avocat de la Cour d'appel de Lyon, Pierre Véron, qui défend un certain nombre de gens à Lyon. Ce sont des affaires précises. À partir de l'hiver 1970, on découvre que au tribunal militaire de Lyon, des procès sont organisés pour des gens qui viennent d'Eton et qui ont fait des tentatives de suicide entre 1968 et 1969. L'armée, bien entendu, ne parle pas de suicide, mais parle de mutilation volontaire. Hein. Donc c'est un petit peu ce que j'ai entouré, là. Ces gens, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient pour se suicider? eh bien, ils avalaient tout ce qu'ils trouvaient. Donc, au milieu de la cour, ils trouvaient un boulon, hop, ils avalaient le boulon. Au réfectoire, pour manger, ils déchiquetaient leur fourchette, ils avalaient les morceaux de la fourchette, etc. L'objectif numéro un était de se faire ouvrir et surtout de quitter cet enfer, ce qu'ils considéraient comme un enfer. Alors, risque et péril, bien entendu, hein, puisque on peut évidemment, vous le savez bien, mourir dans ces conditions. Mais là, je n'ai évidemment pas de cas de mort à Aethon. On en a beaucoup parlé avec les familles, parce qu'un certain nombre de bagnards reviennent à Aethon, plus ou moins discrètement d'ailleurs, mais bon. Et ils viennent avec leurs enfants, leurs épouses, les petits-enfants, et puis quand ils sont là et qu'ils savent que moi je suis disponible, ils m'appellent et je viens. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre eux. Et c'est vrai que ces cas de suicide ont été assez importants et des cas d'évasion également par la même occasion. Hein. Donc en fait, ils cherchaient à aller où ? À Dejnet, hein, l'hôpital militaire, l'équivalent du Val-de-Grâce à Lyon, Dejnet. Et puis une fois qu'ils étaient remis, entre guillemets, eh bien, ils étaient envoyés à Montluc, hein, pour la convalescence. Et une fois que tout était terminé, soit ils repassaient devant le tribunal militaire de Lyon, soit ils étaient directement renvoyés à Aethon. Alors, le mois de février 70, vous voyez, on commence à voir là la presse, hein, qui, j'ai cité Le Monde tout à l'heure, mais là, de plus en plus, on voit apparaître le mot bagne dans la presse, l'Humanité, par exemple. Mais c'est pas, y a pas uniquement cela. Et puis, la presse en parle donc de plus en plus. Et alors, comment les choses se passent-elles en Savoie ? En Savoie, l'opinion ne sait pas grand-chose. Il y a des rumeurs. Mais à cette époque-là, ce ne sont que des rumeurs. Par contre, ce qui est intéressant, et ça va vous interpeller, je pense, comme moi-même, ce qui est intéressant, c'est qu'au printemps 1970, pendant trois jours, je vous ai mis trois unes du Dauphiné libéré des 25, 26 et 27 mars 1970. Donc à l'époque, le Dauphiné libéré, c'est évidemment le journal. Il n'y a pas ces petits appareils là qui circulent aujourd'hui, smartphones et autres. Donc c'est vraiment la Bible familiale. On apprend tout par le Dauphiné libéré à une époque où il n'y a pas beaucoup de chaînes de télévision non plus et où la radio, heureusement, fonctionne bien. Et donc, il y a à peu près 400 000 exemplaires du journal, et dans ce journal, eh bien, on parle d'Aethon. Alors, on parle d'Aethon comment ? Et je me suis demandé pourquoi on en parlait trois jours de suite et sous cette forme. Le 25 mars 1970, sur un grand article qui fait pratiquement une page, comme vous le voyez, à Chambéry, dans le cadre d'une grandiose prise d'armes, les adieux du colonel Branche sont évoqués et la remise de la cravate de commandeur de la Légion d'honneur est attribuée à un ancien maire de Chambéry, M. Paul Chevel. Et puis j'ai encadré et entouré deux personnes que finalement le commun des mortels ne connaît pas vraiment, mais qui sont là pourtant présents à Aethon. C'est le capitaine Mandrino et l'adjudant-chef Houlon du CSTM, je vous cite le Dauphiné libéré, donc qui en Savoie est capable de savoir ce qu'est le CSTM, je me le demande encore, surtout quand on le présente comme ça. Alors c'est peut-être une faute d'orthographe, évidemment, du CSTM, en fait c'est une compagnie, hein. Donc le mettre au masculin sous cette forme, c'est curieux. Mais bon, ils reçurent à leur tour la croix de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Voilà. Et alors, donc, j'ai eu avec moi des petits cadres et des bagnards, d'anciens bagnards qui sont toujours en vie, et je leur ai présenté les photos, et ils ont très bien reconnu l'adjudant-chef Houlon, qui, je l'ai appris par la suite, a résidé dans la vallée de la Maurienne, puisque un certain nombre de militaires qui œuvraient au temps du bagne ont résidé par la suite dans la vallée. Le lendemain, le 26 mars, de nouveau, prise d'armes du quartier Verlanus. Donc, c'est intéressant, c'est de l'information par l'image. Et de nouveau, le capitaine Mandrino et l'adjudant-chef Houlon se virent remettre la croix de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Donc, au cas où vous auriez loupé le premier épisode, on en remet une petite couche le lendemain. Et puis, c'est pas fini, parce que le surlendemain, le 27 mars, cette fois-ci, non seulement on redit exactement la même chose, mais on met une photo et on les met tous les deux à l'honneur. Donc ils sont au cours d'une récente prise d'armes. Le capitaine Mandrino et l'adjudant-chef Houlon ont reçu des mains du colonel Branche la croix de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Alors évidemment, vous imaginez bien que moi-même, je m'interroge, et je pense que tous les scientifiques qui apprennent ce genre de nouvelles s'interrogent sur les faits et gestes des uns et des autres, et qu'est-ce qui peut justifier cette distinction de surcroît, 3 jours de suite, dans la presse. Alors, en fait, on est sur une explication qui concerne des éléments de contexte. On est à une époque où à Paris et à Lyon, puisque j'ai cité ces deux lieux, c'est très important, dans les deux plus grandes villes de France, en fait, des cercles d'intellectuels, des cercles de familles ont des informations sur ce qui se passe ici en Savoie, à Forêt-on, et commencent à faire circuler un certain nombre de nouvelles. Et alors évidemment, les nouvelles circulent sous le manteau, hein, c'est pas au grand jour, mais finalement, la presse est informée. Et quand on dit la presse, c'est deux journaux en particulier, deux journalistes qui se sont particulièrement engagés sur cette question. C'est Henri Lemoine, qui est journaliste à l'Express, donc il y a eu un reportage dans l'Express Rhône-Alpes, et puis c'est le Nouvel Observateur avec un journaliste qui s'appelle René Bachmann, qui est toujours en vie, je crois, et que je n'ai pas rencontré, mais qui est toujours en vie, me dit-on, et qui est venu au Fort des Tons pour demander s'il pouvait faire un reportage. Et donc on voit bien que le ministère, là, commence à être un petit peu ébranlé par le Fort des Tons. Il en entend parler à Paris. Et d'anciens bagnards qui transitaient par Paris me disent que vers le moulin de Montmartre, il y avait également des tags, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui des tags, Forêt-on égale SS. Hein, donc voilà, on commence à en parler hein, à ce moment-là, et je pense que, bon, c'est sorti dans le Dauphiné Libéré, peut-être que ça a été une demande, est-ce que le journaliste est libre de tout, est totalement libre pour informer, j'en sais rien, je ne me pose même pas cette question. En tout cas, je constate que 3 jours de suite, la CSTM est à l'honneur dans le Dauphiné Libéré. Alors c'est d'autant plus intéressant parce que regardez trois jours après ce qui se passe dans la presse nationale cette fois-ci. Le 30 mars, justement, voici René Bachmann. Et René Bachmann publie un article de fond qui s'appelle « Biribi en Savoie » dans le Nouvel Observateur. Donc on peut forcément imaginer que les RG, que la DST ou je ne sais quoi sont mis au courant de ce qui se passe en Savoie et que donc derrière... eh bien, ils ont finalement anticipé. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de l'interpréter comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Enfin, quand on voit la proximité des dates, c'est quand même assez étonnant. Hein. Donc, on a un article de fond sur le bagne des Tons qui s'intitule « Biribi en Savoie ». Ah, décidément, ce monsieur-là... Excusez-moi. Voilà. Donc, ensuite, parmi les autres documents qu'on trouve... Je vois pas grand-chose... eh bien, il y a d'autres articles qui paraissent au printemps 70, des enquêtes, des témoignages, des courriers. Et là, c'est intéressant parce que je me souviens d'un petit cadre, donc quelqu'un qui a été envoyé contre son gré à Eton, mais c'est l'armée, il faisait son service militaire, il est appelé du contingent, et il est infirmier. Et ce petit cadre a été témoin de choses qui l'ont un peu horrifié pendant ce temps de service militaire, et donc... de façon très prudente, il écrit, il est d'Almas, hein, Jean Mercier, et il écrit dans le courrier des lecteurs pour informer l'opinion de ce qu'il a vécu. Hein. Bon, décidément, je n'appuie pas sur le bon bouton. Alors, voilà. C'est intéressant aussi de voir qu'une partie très large de la classe politique s'est mobilisée à propos des Tons. Tout à l'heure, j'ai parlé de Minami, et de son collègue qui militait au Parti communiste. Ici, nous sommes sur une personnalité de centre-droit qui, on est toujours en 1970, vous voyez, hein, ce qui est intéressant, c'est l'enchaînement de tous ces événements. On est en avril 1970 et un député de la 4e République, Paul Hutin Desgrés, qui a joué un rôle évidemment important pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu des décorations très importantes, qui... a été à la tête d'un très très grand journal, Ouest France, eh bien, il utilise une expression qui n'est pas anodine et qui renvoie évidemment à la Deuxième Guerre mondiale. Il parle de Forêt-on, au lieu d'utiliser l'expression crime contre l'humanité, il dit c'est un péché d'inhumanité. Et il est rejoint par, évidemment, tout... donc là on est sur la classe politique, on est sur des parlementaires, mais dans les associations, on a un certain nombre de gens, j'ai parlé tout à l'heure de la Ligue des droits de l'homme, on va aborder peut-être autre chose cette fois-ci avec des gens qui sont, qui sont très engagés dans la protection de l'enfance depuis très longtemps, et notamment Alexis Danan. Et ce journaliste, Alexis Danan, qui est mort en 1979, comme vous le voyez, qui était de l'autre siècle, écrit quelque chose de tout à fait particulier au ministre que j'évoquais tout à l'heure, ministre de la Défense, Michel Debré. Et il dit ceci, je cite, « Vous savez maintenant, vous vous devez de ne pas faire moins que la Troisième République, qui, il y a 35 ans, supprima Biribi, honteuse de s'y résoudre avec un si grand retard. Le pouvoir ne doit être laissé à personne de condamner à la folie carcérale, c'est-à-dire à la mort morale, des hommes à peine sortis de l'enfance. » Et il décrit ici les situations dont il a entendu parler, dont les familles lui ont parlé à propos de ce bagne des thons qui est installé depuis le tout début des années 60. Bien sûr, le canard enchaîné, donc je dis bien sûr parce qu'effectivement, c'est sa réputation manœuvrer sur ce genre de sujet, évidemment. Donc on est le 6 mai 1970 et vous voyez l'article. Bon, je n'ai pas le temps de tout vous lire, mais vous irez voir si ça vous intéresse. Et puis, on a des gens, des écrivains, des intellectuels engagés qui militent. Là, vous le voyez, par exemple, à la Ligue des droits de l'homme. Je pense, bien sûr, à Denis Langlois, qui évoque le bagne des thons et qui évoque également ses liaisons avec le groupe lyonnais. Et j'ai entouré là le nom de Michel Tachon, sur lequel je vais revenir dans un instant. Pourquoi ? Parce que la presse, finalement, en Savoie, comme dans l'Hexagone, ne peut plus ignorer les thons. Je vous ai mis côte à côte ici deux articles publiés en plein cœur de l'été 1970, Le Progrès de Lyon et Le Monde, 18 et 19 août 1970. Pourquoi ? Parce que des gens essayent de sensibiliser l'opinion à ce qui se passe dans ce fort. Alors ce sont des objecteurs de conscience qui sont libres, mais pas pour longtemps, puisqu'ils sont interpellés à Saint-Jean-de-Maurienne parce qu'ils distribuaient des tracts, des tracts antimilitaristes. Alors, ils avaient fait dans cette ville, peut-être certains d'entre vous ont des souvenirs, je ne sais pas, si c'est le cas, je serais heureux quand même de l'apprendre et d'échanger avec vous. Donc, il y a des gens qui sont venus à la gare ici et qui ont fait une opération au mois d'août 1970 pour informer les Savoyards de ce qui se passait à Eton. Et puis, ce qui est intéressant encore, c'est que ce sujet dépasse nos frontières. J'ai évoqué tout à l'heure Paris, j'ai évoqué Lyon, qui sont deux endroits très importants pour prendre en compte la situation des thons, mais l'étranger aussi. Nous sommes à Montréal ici. Nous sommes à Montréal pourquoi ? Parce que des étudiants français qui ont eu des amis ou des connaissances qui étaient passées par Eton se retrouvent à l'étranger. Et c'est le cas notamment d'un professeur de mathématiques qui est originaire de Nice, et qui a fondé un mouvement à Montréal qui s'appelle « Vivre ou survivre et vivre ». C'est dans cet ordre-là. Et je vous ai mis là sous les yeux quelques reproductions de ces publications qui sortent à l'automne 1970 en français et en anglais. Et ça aussi, c'est intéressant parce que Eton, le bagne d'Eton, ça veut dire que des gens qui ne sont pas francophones en entendent parler à l'étranger. Et alors, ce n'est pas des pages entières. Mais il y a quand même les bagnes coloniaux, les bagnes de l'armée, on en parle, et on fait référence notamment à Fort Eton. Et puis, la classe politique, toujours, ça doit être beaucoup discuté quand même dans les rangs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, je l'imagine d'ici. Et donc, Michel Rocard, cette fois-ci, qui bien avant de devenir Premier ministre, a pris la parole devant ses collègues du Palais Bourbon, le 7 octobre 1970, il déclare: la simple expression d'opinion non conformiste est sauvagement réprimée, comme c'est le cas, par exemple, au Fort des Thons. Donc, ça veut dire que tous les parlementaires de France ne peuvent pas ignorer ce qui se passe. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Tout à l'heure, je parlais de Michel Debré qui prend ses fonctions dans cette période. On est un an après. Et il n'est pas surprenant, finalement, vous allez voir, les décisions qui étaient prises ne sont pas du tout surprenantes. Alors, j'insiste encore une fois, parce que La contestation existe à Paris, elle est forte. Et elle est forte dans des milieux, dans des groupuscules qui sont issus de mai 68. Et bien sûr, vous avez là Alain Gesmard sous les yeux, son groupe Gesmard Partout, qui est condamné d'ailleurs par l'État. Alain Gesmard a fait de la prison. Et vous voyez, j'ai mis une affiche là, procès Gesmard, procès du peuple, tous dans la rue le 20 octobre, c'est le jour... évidemment, où la cause maoïste, la cause du peuple, est particulièrement défendue à Paris par ses amis. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que vous voyez la date, 19 et 20 octobre 1970. En fait, la forteresse d'Eton aurait pu disparaître à jamais ce jour-là, puisqu'il y a eu un attentat. Alain Gesmard et son groupe ont commis un attentat à Eton, à l'entrée de la Maurienne, et ont déposé des explosifs à l'entrée du fort. Non pas à l'entrée du fort que vous fréquentez tous, que nous fréquentons tous quand nous rentrons aujourd'hui, mais sur la partie haute, et sur la partie haute, donc derrière, à l'endroit où il y avait les officiers, et surtout, c'est l'endroit où il y avait les réserves d'essence. Donc vous imaginez les dégâts qui auraient pu être causés cette nuit du 19 au 20 octobre 1970. La mèche, bon, il y a de l'humidité, du brouillard, etc. Les explosifs n'ont pas explosé. Et donc, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Néanmoins, la cause du peuple, ce journal maoïste, est toujours distribué. On voit ici Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui distribuent finalement un journal interdit par le gouvernement français, mais dans lequel on y parle d'Eton. Voilà. Également, un Savoyard, pardon, qui s'appelle André Dupont, qui est originaire d'Annecy, plus exactement de la banlieue, qui a été fait commandeur dans l'ordre des arts et des lettres par Jacques Lang, le ministre de la Culture. C'était un crieur public, c'était un original, c'était quelqu'un que j'ai rencontré une seule fois dans les années 80 à Annecy, et j'ai eu la peur de ma vie. Il m'a fait vraiment peur, ce monsieur. Parce qu'il haranguait les foules, il criait très fort et il dénonçait ce qui lui semblait être les absurdités de ce monde. On le voit ici dans la rue. Donc son nom d'emprunt, c'était Agigi Mouna. Et donc il évoque Eton en automne 1970 dans les rues de Paris. Et puis j'ai eu la très grande surprise, une fois que j'avais découvert le manuscrit d'Arsène Altemeyer, de découvrir toute son histoire. Donc c'est l'histoire de Arsène Altemeyer, oui. On ne voit pas le titre, mais ce n'est pas grave. On est à la fin de l'année 1970. J'ai découvert plusieurs bonnes feuilles de manuscrits d'Arsène Altemeyer et je me suis demandé pourquoi et qui avait bien pu diffuser son témoignage. Parce qu'il n'y a pas évidemment son nom, mais j'ai reconnu toute son histoire que je connais par cœur maintenant depuis que j'ai lu le manuscrit de 2015, après l'avoir découvert en 2015. Et ça veut dire que entre eux, les bagnards discutaient. Alors, ils ne pouvaient pas forcément en parler à leurs parents, à leurs frères et sœurs, parce que personne, évidemment, les écoutait. Quand je discute avec Arsène Altemeyer, je pense tout de suite à Simone Veil qui dit « Mais personne ne voulait nous entendre quand on est sorti de Buchenwald, de Ravensbrück ou d'Auschwitz. » Ça me fait penser à ça parce que, personne n'écoutait ces gens qui étaient extrêmement blessés et qui n'avaient, enfin, il n'y avait pas de thérapie comme aujourd'hui, on peut voir dans différents milieux, y compris au sein de l'armée. Arsène Altemeyer racontait à qui voulait bien l'entendre son histoire, c'était une forme de libération. Et il s'est notamment entretenu beaucoup avec un ami de la famille. Donc, vous voyez, le cercle rapproché des bagnards ne pouvait pas les entendre. C'est pour ça qu'ils ont continué à faire n'importe quoi. Il n'y a pas eu de prise en charge en sortant du bagne d'Eton. Aucune. Et donc, Arsène Altemeyer a raconté son histoire à un juriste. Ça peut paraître étonnant. Mais c'est un juriste qui s'appelle Robert Litt. J'ai eu sa fille au bout du fil. Sa fille ayant été à l'école avec Arsène Altemeyer. Et Robert Litt était greffier au tribunal de Saverne. Et j'ai découvert finalement que c'est lui qui a dactylographié le manuscrit d'Arsène Altemeyer. Et le manuscrit d'Arsène Altemeyer, c'est la machine à écrire de Robert Litt, ou les machines à écrire de Robert Litt. Il a dû faire ça sous le manteau, je pense, en dehors de sa vie professionnelle, au sein du tribunal de Saverne. Donc vous voyez aussi l'ambiance dans laquelle nous sommes pour pouvoir témoigner, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler. Et donc, la personne qui a saisi ces feuilles, probablement que c'est lui qui les a diffusées, j'ai une autre hypothèse, c'est peut-être, le rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace de l'époque, M. Chibi, qui peut-être aurait eu aussi cette idée, puisqu'il avait été informé du vécu d'Arsène Altemeyer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on va à la Bibliothèque nationale à Paris, on retrouve un document qui est édité par des gens qui militent en faveur de la fermeture du bagne d'Eton, et ils ont diffusé 7 ou 8 pages de l'histoire d'Arsène Altemeyer que je vous montre sous les yeux.
Alors, on va avancer un petit peu, parce que je vois que l'heure tourne. Alors, donc à la fin de l'année 1970, voilà, ce manuscrit, ben voilà, Robert Litt, c'est ce que je voulais vous dire, et j'ai entouré le sceau de la Bibliothèque nationale, ce document est aujourd'hui à Paris, bien entendu. Alors, je vous disais, c'est intéressant quand même de réfléchir sur l'entourage de Michel Debré et sur le séisme finalement que provoque dans l'opinion l'existence du bagne des temps. Je vous lis rapidement un message de Michel Debré, donc c'est le ministre d'État chargé de la Défense nationale. Nous sommes le 18 décembre 1970. Et alors il dit ceci, « Monsieur le Président, donc il répond à une des associations qu'il a sollicitées, d'importants et utiles aménagements ont été apportés et vont être apportés aux installations du Fort d'Eton où est implantée la compagnie spéciale des troupes métropolitaines. » Donc vous voyez, c'est important ce que je vous lis là, parce qu'on voit bien que l'année 1970 est une véritable charnière. Tout à l'heure, vous vous souvenez, circuler, il n'y a rien à voir, on est au mois de janvier 1970. Donc on voit bien que, au sein du cabinet du ministre de la Défense, il se passe quelque chose. Cette compagnie continuera à recevoir les quelques hommes qui méconnaissent gravement et de façon réitérée, comme je vous l'ai dit, les prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. On voit bien donc qu'il se passe quelque chose et que déjà, dans ces mois-là, à Paris, au sein du ministère de la Défense, des gens se soucient de faire évoluer ce bagne des temps. Alors, on est on avance un petit peu dans le temps et au mois d'avril 1971, on découvre. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Quelqu'un tout à l'heure m'a gentiment.
C'est ça.
Voilà, un document que j'avais découvert à Paris et quelqu'un me l'a offert très très gentiment et je vous en remercie infiniment. Ce document qui s'appelle Fort Eton, c'est exactement celui-là, oui, et que moi j'ai découvert à la Bibliothèque nationale à Paris et qui contient donc un certain nombre de. Donc c'est publié clandestinement à Lyon-Fourvière. L'initiateur, je l'ai eu au bout du fil plusieurs fois ces derniers temps, c'est Michel Tachon. Et c'est quelqu'un qui est sociologue. Et c'est quelqu'un qui était non pas hostile à l'armée, mais qui voulait faire reconnaître le statut d'objecteur de conscience. Et il était ce objecteur de conscience. Et il s'est retrouvé à Montluc, à la prison de Montluc. Et il est l'un des fondateurs du GARM. Voilà. Donc son nom ne vous est peut-être pas inconnu, parce que c'est lui, avec deux autres co-auteurs, qui sont décédés, m'a-t-il dit, qui a publié un livre qui s'appelle « Les bagnes de l'armée française ». Et vous voyez bien dans le sous-titre que Fort Eton apparaît. Fort Eton, Scylla, etc. Donc ce sont d'autres compagnies. Donc on voit bien que là aussi, la société française, à Paris en tout cas, dans les librairies, ne peut pas ignorer l'existence du bagne d'Eton. Alors François Maspero, qu'on voit ici avec Marguerite Duras, évidemment était assez contesté à l'époque. On est dans l'été, automne 1971. Et puis, 1972, c'était année de crise. Alors là, je vous ai mis un dessin d'Arsène Altemeyer qui s'est lui-même représenté. Année de crise parce qu'évidemment, les ultras se manifestent, en France et en Allemagne notamment. Le mouvement anarchiste gagne du terrain. Et finalement, je me dis aussi, là aussi, les cabinets ministériels apporteront la réponse, mais je me dis vraisemblablement, le pouvoir ne peut pas ignorer ça. Enfin, je veux dire, les renseignements généraux, etc., ont toutes ces informations, ce n'est pas possible autrement. Et le ministère a besoin aussi de faire évoluer les choses. Donc, le Nouvel Observateur continue en plus à publier. Là, vous voyez René Bachmann, on est en mars 1972, on en reparlera demain, et il est particulièrement question du bagne d'Eton. Et puis, à un moment, le pouvoir, c'est toujours ce que je me dis, parce que je n'ai pas malheureusement de traces écrites, mais je me dis qu'à un moment, le pouvoir ne peut plus reculer. Que finalement, la presse a dit beaucoup de choses et qu'il faut en finir avec ce bagne des temps. Il faut trouver une formule. Alors, pourquoi il faut trouver une formule? Vous voyez, nous sommes au mois de mars 1972. Et en ce printemps 1972, vous ne le savez sans doute pas, mais il se passe quelque chose d'important à Eton. Arsène Altemeyer décrit très très bien les choses dans son manuscrit, dans le livre que vous avez sous les yeux. Et il décrit ceci. Il est allé chercher à Paris, à l'ORTF, il n'y a que deux chaînes de télévision, il est allé chercher un preneur de son et un caméraman. Il est allé chercher les directeurs de théâtre, les principaux directeurs de théâtre à Paris. Théâtre Mouffetard, vous avez vu Guénolé Azertia. Le théâtre des Amandiers.
Il y a là un certain nombre de gens qui viennent à Eton clandestinement, non pas pour rentrer dans le fort, mais pour filmer ce qu'il a vécu, ce que Arsène Altemeyer, qui est leur guide, a vécu. Et on voit des gens, notamment avec des brouettes, on voit des gens en tenue de bagne, qui n'ont plus d'habits militaires, ils n'ont plus l'honneur d'avoir l'habit militaire, ils n'ont plus l'honneur de porter les armes. Donc ce sont des gens qui sont habillés avec des cotonnades écrues, etc. Et on les voit, la boule à zéro, ils sont rasés, et on les voit en train de travailler. Et ils filment ça, ils se cachent sur les hauteurs d'Eton pendant 3 jours. À mon avis, ce n'était pas très malin, parce que je pense que c'était relativement facile de les découvrir, et très probablement, ils ont été découverts tôt, mais peut-être que la gendarmerie a laissé faire. En tout cas, au nez et à la barbe de gendarmes, ces gens d'ORTF, qui sont des professionnels du son et de l'image, envoient les bobines quasiment dans l'instant, une fois qu'elles sont complètes, par la poste à Eton. Et donc les bobines arrivent à l'ORTF. Et Arsène Altemeyer est tout à fait capable de dire à quel endroit elles ont été stockées, quel est le nom qui a été donné à cette bobine pour qu'elle ne repère pas, elle ne soit pas aisément repérée, etc., etc. Et puis donc le troisième jour, quand ça se passe, eh bien, ils regagnent le Grenoble, ils vont prendre le train, ils avaient une voiture de location, et entre Chambéry et Grenoble, tout le convoi est arrêté à la nuit tombante, il fait nuit, à un rond-point. Il y a plusieurs estafettes des gendarmes, le revolver sur la tempe, et ils sont arrêtés. Et ils sont tous ramenés à Eckbel. Donc là, je pense que les archives aussi vont parler, et j'attends avec impatience de pouvoir consulter, si j'espère pouvoir le faire, consulter un jour les procès-verbaux de la gendarmerie, et voir qui était là, et ce qui s'est passé exactement. Et la dernière bobine était justement, c'est une pièce à conviction que j'espère retrouver aussi, cette dernière bobine a été saisie par les gendarmes. Donc je me dis, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Donc d'abord, le premier problème, c'est où est ce film? Où est ce documentaire? Et je vais vous livrer un scoop parce que j'ai découvert quelque chose il y a seulement 48 heures. J'ai longtemps pensé que le film Foreton existait. Et on a même, je l'avais annoncé au mois de juin, à l'hôtel de ville, dans les salons de l'hôtel de ville de Chambéry, avec notre ami Jean-Olivier Vieux, j'avais annoncé à l'Académie de Savoie que je pensais que ce film existait et que je le retrouverais un jour, mais que Arsène Altemeyer lui-même me donnait une autre version et qu'il me disait c'est un coup monté. En fait, il apparaît sur Internet, il s'appelle Foreton, mais c'est parce que le pouvoir ne pouvait plus reculer, justement, et ne pouvait plus faire en sorte que l'opinion ignore Foreton. Alors, il m'avait mis sur cette mauvaise piste, puisque je vous dis, depuis 48 heures, j'ai découvert la vérité. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que, compte tenu de ces événements, dont personne n'a entendu parler, ce que je suis en train de vous dire là, aucun Français ne l'a su, bien entendu. Hein, mais à un moment, il fallait que l'opinion soit quand même informée. On ne sait jamais de ce qui peut se passer, surtout qu'on est dans la capitale et à Lyon. Donc, comme la télévision est sous la coupe du pouvoir, et on le sait, hein, on sait quelle était la place de Gaulle avec la télévision et comment il l'a utilisée, eh bien, pendant 1 minute 30 seulement, le 16 mars 1972, j'ai retrouvé les archives à l'INA, la télévision française consacre un reportage d'une minute 30 à Eton. Alors, le mot bagne est évidemment exclu, vous l'imaginez, hein, encore moins qu'en travaux forcés, mais on sent quand même le journaliste extrêmement gêné. Hein. Quand il s'exprime, il a un ton extrêmement monocorde, on est sur un gros titre, ça dure 1 minute 30, mais il est extrêmement gêné et il dit, en gros, je vous résume, oui, bien sûr, chacun aura sa propre opinion sur la réalité des tons. Enfin, voilà, hein, c'est un peu dans ce style. Donc, c'est très diplomatique, etc., etc. Mais on voit bien quand même que, avec tous les événements qui ont précédé, quelque part, le pouvoir est gêné. Et donc, malgré tout, et là, je n'ai pas encore réussi à aboutir, mais j'ai fait une énorme avancée il y a tout juste 48 heures. Parce que, jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières semaines, j'imaginais que ce film, qui s'appelle Foreton, était justement le film des images d'Arsène Altemeyer. Des images tournées par l'équipe de l'ORTF, du son et les caméramans. Et j'ai retrouvé depuis longtemps ce film. Et j'ai même retrouvé, vous voyez Yves Montand, dans la saison cinématographique 1973, alors au passage, je me suis rendu compte que ce document-là, c'est un document épais, c'est la revue du cinéma, et j'ai vu, c'est pour moi un mystère, pourquoi cette revue du cinéma était imprimée à Annecy. J'ai retrouvé le nom de l'imprimerie et le nom d'Annecy. Donc vous voyez que ça restait dans la région. Mais malgré tout, voilà, on est sur un film qui est annoncé. Vous le voyez, il est en noir et blanc, c'est du 16 mm. C'est un film franco-allemand qui date de 1972. Donc on est bien dans cette époque où ça bouge de tous les côtés. Et la durée, ça dure 50 minutes. Et on voit producteur, donc l'école de cinéma et de télévision de Munich. Et on voit qui est le réalisateur, Marc Delestre et Marc Bischoff. Ça fait largement 3 ans que je cherche à découvrir qui sont ces deux personnes. Je n'en sais rien. Et je suis mis sur la piste des bagnards, d'anciens bagnards, qui me disent « Mais finalement, vous recherchez les images, moi je vous dis qu'elles n'existent pas, c'est un coup monté, c'est une façon de faire disparaître la réalité, et finalement, à un moment où la France est aussi présente en Allemagne, avec tout ce que vous savez de l'histoire de l'Allemagne, eh bien, finalement, ces images clandestinement sont parties, peut-être que quelqu'un les a protégées à l'OFTF, elles sont parties du côté de Munich, et puis voilà. Au moment où je vous parle, je n'ai jamais vu ces images. Mais, ce que je sais depuis 48 heures, c'est que Marc Delestre existe, il est vivant. Il n'habite pas du tout dans notre région, je l'ai retrouvé, il avait 22 ans, j'ai là aussi une enquête de police, hein, véritablement, pour pouvoir aboutir. Mais ça fait plusieurs mois que je suis sur cette affaire. Mais donc, depuis 48 heures, il m'a téléphoné, il m'a envoyé un mail. Je savais qui pouvait potentiellement le joindre, puisque je n'avais pas son contact direct. Et des personnes m'ont aidé, là aussi, clandestinement, je ne sais pas pourquoi, elles ne se sont pas révélées, mais je sais que des personnes m'ont aidé à retrouver Marc Delestre, puisqu'il a eu toutes mes références, et il a eu, y compris mon numéro de téléphone et mon courriel. Et donc, Marc Delestre est vivant, et il m'a dit qu'il a conservé la totalité des interviews qu'il avait faites en 1972. Donc, c'est extrêmement précieux, c'est une pièce à conviction, qui va supplémentaire, je dirais, qui va nous permettre de comprendre ce que fut le bagne des Thons et comment il a été perçu dans l'opinion cette année 1972. Alors, je ne sais pas comment je vous en parlerai, peut-être une nouvelle publication ou je ne sais quoi, mais en tout cas, j'attends avec impatience maintenant de pouvoir lire ce document. Et donc, ce film, Forêt-Thon, existe bien, en effet. Et il a été diffusé dans des festivals. J'ai même lu par hasard qu'il a eu un prix. Etc. Et alors, j'étais surpris par ces deux lettres, FC. Qu'est-ce que c'est que FC ? Et en fait, je pense que Marc Delestre va me dire, je pense qu'il s'agissait de François Chevassu, qui est décédé maintenant et qui était un critique de cinéma extrêmement respecté dans la profession. On avance, donc, le film Forêt-Thon, j'ai confirmation maintenant, depuis 48 heures, qu'il a bien été tourné en 72. Et qu'il est dans la revue du cinéma de 73. Et au moins, en ce printemps 72, toujours, on a une nouvelle déclaration, toujours Michel Rocard. Alors, il n'est évidemment pas à l'Assemblée là, hein, la photo, c'est pas une photo qui est à l'Assemblée ici, hein, parce qu'il y a peu d'archives, en fait, cinématographiques et photographiques de ce moment-là. Mais, de nouveau, il s'exprime sur le Fort des Thons au mois de mai 1972. Et là, il fait référence, cette fois-ci, à un cas précis. Hein, il cite un cas très précis. Au mois d'octobre 1972, on voit cette une, par exemple, de l'Express. Bon, après, on peut parler de tout ce qu'on veut, hein, où est la neutralité, l'objectivité du journaliste, etc. Moi, je ne suis pas là-dessus, sur ce sujet, mais enfin, je vous montre ce que j'ai trouvé. C'est vrai que le Premier ministre est contesté dans l'opinion, et on en a une image ici. Alors, on ne parle pas des Thons. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai acheté, évidemment, l'Express, mais on ne parle pas des Thons dans ce journal. En revanche, en clair, qu'est-ce qu'on dit ? Les journalistes consacrent un grand dossier et finalement montrent que le pouvoir est un peu à bout de souffle, hein, et qu'il faut du sang neuf. Hein. En gros, je résume là très, très grossièrement, mais en gros, c'est ce qu'on peut lire dans les différents articles. Hein, voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du Canada. Oui, on retrouve des archives, Thon est connu à l'étranger, par les francophones et par les anglophones, c'est indéniable. mais également en Suisse, dans la Suisse voisine. Et vous avez là sous les yeux un journal qui a été publié au mois de décembre 1972. Il y a une page complète, les self-service, ça c'est à la française. Et c'est un journal un peu satirique, c'est un peu le canard enchaîné, la pilule, c'est un peu le canard enchaîné de Genève et de Lausanne dans la Suisse romande. Et regardez la gravité des dessins qui sont publiés cette année-là, hein. Après Auschwitz, Forêt-on. Alors, c'est vrai que ça peut, on peut rester très dubitatif, parce que j'entends des militaires me dire non, Eton n'a jamais été un camp de concentration, etc. Pour autant, moi je voudrais témoigner de ces dessins, puisqu'ils existent, et ce n'est pas moi qui les ai faits, bien entendu. Hein. Et vous voyez Pierre Messmer qui est de nouveau cité, et tout à l'heure je vous disais que c'est l'homme de la CSTM. Hein. Je discutais avec différents bagnards dernièrement, il y en a un qui venait de Normandie, qui venait tout spécialement à Eton parce qu'il avait besoin de montrer ça à sa femme et à sa famille. Et il me disait que son père avait fait, était un rescapé de Buchenwald. Et donc, on parle d'Auschwitz, je vous parle de Buchenwald. Son père était un rescapé de Buchenwald et n'a jamais admis que son fils, qui était un para, soit mis dans ce camp de concentration, qu'il considère comme un camp de concentration, avec des guillemets, bien sûr, c'est pas, la phrase n'est pas de moi, hein, vous l'entendez bien. Et pour lui, c'était absolument inadmissible. Donc, ce monsieur, cet ancien bagnard, me dit que son père est intervenu auprès du ministre dans un cabinet. Hein, et que ça s'est su au niveau de la hiérarchie militaire, et qu'il a été libéré, après être passé par toute la période des sévices, etc., et notamment de ce qui est bien connu désormais, qui s'appelle le Calbeau, et qu'on a retrouvé, hein, c'était... Tout ça a été condamné, mais les bagnards ont voulu retourner sur place pour retrouver l'endroit très précisément où était le Calbeau, et ils ont quasiment retrouvé tout ça sur place. Eh bien, ce monsieur, donc, qui vit en Normandie maintenant, a été touché par l'intervention de son père auprès du ministère, et finalement, assez rapidement, il a été libéré. Alors, il a été libéré dans des conditions extrêmes parce que... Alors, comment est-ce qu'il a su que son père était intervenu? Eh bien, parce que la hiérarchie militaire, en tout cas le commandement du camp, je ne sais plus qui était là, mais peu importe, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là pour l'instant, cette personne qui dirigeait donc le camp d'Eton lui a dit « Vous remercierez votre père » ou « Tu remercieras ton père », je ne sais pas comment... Bon. Et en fait, ce gars, il avait glissé sur une plaque de glace en plein hiver, on est au tout début des années 60, hein, et il avait une charge très importante, puisque en fait, les disciplinaires étaient condamnés à courir en permanence, et même sur place, hein, en trottinant sur place, avec très souvent des charges très lourdes sur le dos, des dizaines de kilos de cailloux, hein, de rochers. En fait, c'était ça l'un des supplices. Y compris dans la cour d'honneur et à l'extérieur du fort. Et donc ce monsieur s'était effondré en fait et s'était abîmé complètement la jambe. Et il est sorti sans soin, sans quasiment de soins, et il a été, il me dit, mon pied faisait presque 360 degrés, hein, tellement il était abîmé. Il a des vis aujourd'hui, il ne peut plus marcher. Il me dit, moi je porte le bagne des tons tous les jours sur moi. Hein. Et ce monsieur, donc, sait que son père et que probablement les anciens de Buchenwald sont intervenus pour le faire sortir. Et ça a été tragique pour lui parce qu'il a dû regagner... Il avait été amené en camion dans le fort quand il a intégré le camp de travaux forcés, mais il n'a pas été raccompagné. Jusque, contrairement à d'autres bagnards qui me confirment qu'on leur avait donné un billet de train, etc. Et lui, est-ce que c'est l'intervention de son père ou quoi? Il n'a pas été accompagné. Donc, il a fait plusieurs kilomètres avec une jambe cassée. Enfin, un pied cassé. Aujourd'hui, il m'a montré. Il a des vis partout. Enfin, bon, c'est quelque chose qu'il porte aujourd'hui quotidiennement. Alors, je reviens encore sur Michel Debré. Parce que cette année 1970 a provoqué un changement, probablement, d'attitude et de comportement au sein du ministère de la Défense. Et en 72, on en voit le résultat. Et en 1972, pour la première fois dans l'histoire du ministère de la Défense, on voit apparaître le premier et unique livre blanc jusqu'en 1974, pendant 22 ans. C'est l'unique document de référence pour organiser le ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on peut lire pour la première fois? Eh bien, dans le volume 2, je suis allé à la page 48 et je lis qu'il y a une exigence morale. Il faut éviter le recours à la violence. Quand on sait tout ce qui s'est passé, quand on a en tête, je ne vous en ai pas parlé cet après-midi parce que je ne peux pas tout vous dire, mais quand on a en tête toute l'histoire de ce bagne et de ce camp de travaux forcés, c'est évidemment quelque chose qui résonne très fortement. Éviter le recours à la violence. Et il est aussi question de droits de l'homme. Hein. On parle dans ce livre blanc de droits de l'homme et on parle de la formation des militaires. Et ça, c'est quelque chose de... À ce niveau-là, enfin, le placer à ce niveau-là, c'est quelque chose... Donc, c'est un livre de chevet quand même pour un certain nombre de gens. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, au cours des années suivantes, très probablement, avec tout ce que je vous ai raconté, il était temps d'en finir. Donc, au cours de l'année 1972, on voit disparaître la CSTM, à la fin de l'année, je crois. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais enfin, je peux vous la retrouver. Et on voit apparaître une nouvelle compagnie. La CSTM disparaît. Parce que, évidemment, il a fallu aussi organiser une conférence de presse. Hein. Le pouvoir ne peut pas non plus rester muet. Donc, la conférence de presse a eu lieu au quartier général Frère, à Lyon. Et donc, les journalistes, donc, vous voyez, c'est pas Eton, hein, mais les journalistes sont invités à aller écouter un certain nombre de choses. Et on leur annonce que tout ce qu'ils ont entendu, tous les témoignages qu'ils ont eus, on n'en parle plus. C'est du passé. La direction du fort a changé complètement et il y a un nouveau capitaine et voilà. Et donc il n'y a plus de raison de garder l'intitulé compagnie spéciale des troupes métropolitaines, donc c'est une compagnie nouvelle. Le scorpion, tout ce que je vous ai montré, l'insigne, tout ça disparaît, adieu la vie, on n'en parle plus. Par contre, il y a un nouvel insigne avec les montagnes enneigées, avec les skis et surtout avec le drapeau de Savoie, avec l'insigne du drapeau de Savoie. Donc, nouvelle compagnie, la 50e. 50e compagnie qui voit le jour à Eton, de très courte durée. Ça, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans l'histoire militaire, parce qu'elle a disparu très vite, en fait. Hein. Le 1er, donc, vous voyez, là, on est en 73. Le 1er décembre, pardon, 1975, elle n'existe déjà plus. Alors, pourquoi elle n'existe plus? Parce qu'à Paris, on continue à manœuvrer et à dire « arrêtez ». Arrêter tout ce qui se passe dans ce fort. Là, vous voyez un autre député qui est le député maire de Saint-Brieuc et qui s'appelle Yves Le Foll. Et il dit, vous continuez d'enfermer et de maltraiter à Fort-Eton, le nouveau bagne de l'armée. Et je me suis demandé, mais pourquoi on utilise cet adjectif nouveau? Ça ne peut être que parce qu'on a changé de compagnie. Hein. Je ne vois pas d'autre explication à ce jour. Hein. Donc là, on est de nouveau dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Et puis, il y a des manifestations. On est autour de Lyon. Alors, il y a des objecteurs qui mélangent pas mal les sujets. Et ils sont contre le nucléaire. Ils font venir un groupe, la Pulsar, 14 juin 1973, dans la banlieue de Lyon, enfin pas très loin de Lyon. Et il y a des anciens bagnards, des gens qui sortent du forêt d'Eton et qui témoignent. Hein. Voilà. Et puis encore, ce qui est intéressant, c'est que le coup de grâce est probablement arrivé par Cabu. Cabu a produit 22 dessins sur le bagne d'Eton. Et le 12 novembre 1973, dans Charlie Hebdo, il publie ceci, Fort-Eton, bagne écologique. Donc un reportage du côté de la Grande Muette, ça repose des bavards, ça c'est son humour que vous connaissez. Terrain militaire, défense d'entrée, terminé. Et on voit, avant c'était un camp de concentration français pour des types de 20 ans qui avaient volé une Jeep ou cassé la gueule à un gradé ou des déserteurs, etc. Depuis le cimetière, on voit bien le fort. Et donc tous ces dessins, ces 22 planches sont réalisés. Il évoque même un cas particulier, le cas d'un Ardennais à la fin de 1971, il le cite. Et puis, je ne vais pas vous montrer ces 22 dessins parce qu'on n'a pas le temps, mais je travaille évidemment dans une perspective comparative et il est intéressant de voir qu'un dessin de Cabu fait quand même un drôle d'écho au dessin d'Arsène Altemeyer. Et puis les fameux jaguars, ce qu'on appelle jaguars, ce sont ces brouettes. Cette photo date de 1965 ou 1966. On reconnaît très bien le grand arc derrière. Ces photos, enfin les dessins, je les ai trouvés dans l'archive, bien sûr, et les photos me sont données, transmises par les anciens... petit cadre, hein, des gens qui ont envie de témoigner, de raconter ce qu'ils ont vécu. Alors là, on voit les disciplinaires peuvent être utilisés pour des travaux d'utilité publique, construire un chalet à un lieutenant. Bon, C'est une référence, et j'en ai beaucoup discuté avec le propriétaire actuel de cette maison, c'est une référence à une maison qui, en effet, à partir du tout début de l'année 68, peut-être déjà fin 67, mais en tout cas, c'est sûr, du début de l'année 68, c'est une maison d'Eton, aujourd'hui, qui existe toujours, et qui a été construite par les Bagnards. Et c'est la maison du lieutenant Sanson, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui toujours la Sansonnette. Hein. Donc j'en ai beaucoup discuté au mois d'avril quand je suis allé à Eton. Alors elle n'a pas tout à fait cet aspect-là, hein, quand même. Elle a été agrandie, elle a été transformée. Mais on a plusieurs témoignages quand même de bagnards qui, depuis le fort, ont transporté des sacs de ciment très haut dans le village pour construire cette maison. Bon, la violence, elle est décrite. Tout le monde n'a pas vécu la même chose. Hein. Là aussi, des gringalets se faisaient bastonner et me le décrivent. Au contraire, des gens qui étaient plutôt très musclés, gros bras, etc., et qui étaient sans doute craints par leurs supérieurs militaires, n'ont pas eu de, me disent en tout cas, ne pas avoir eu de sévices physiques. Mais c'est très clair, il y a eu des brimades, des tortures physiques et mentales, morales, c'est évident. Alors vous voyez, après, on est sur des petites publications. Ici, le journal des prisonniers, c'est-à-dire pas grand-chose, et en termes de tirage, et on est en janvier 1974, et puis on est encore sur des ultras qui publient la gueule ouverte ou des choses comme ça, mais ce ne sont pas des gros tirages. On n'entend plus parler vraiment du bagne d'Eton, on n'entend plus parler à partir de ce moment-là de tout cela. Donc pour résumer, vous voyez, 1960, alors excusez-moi, ça n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors ça n'apparaît pas. Excusez-moi, je voulais vraiment vous montrer quelque chose là. Mais bon, si ça n'apparaît pas. Est-ce que vous voyez quelque chose d'écrit ? Non. Alors je vais vous le dire. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit bug informatique. Je vous résume. 1960, 1er juillet, installation donc, de cette compagnie CSTM en Algérie. C'est l'insigne qui est tout en haut. 1962, en septembre, c'est l'installation de la CSTM en Savoie, donc le bagne d'Eton. 1972, c'est le 16 mars, la disparition, vous voyez, j'ai la date, 16 mars, disparition de la CSTM et la création de la 50e compagnie d'instruction. Et c'est là, en même temps, qu'est publié le livre blanc. Le 1er décembre 1975, donc, on met fin à cette 50e compagnie d'instruction. Donc, vous voyez ce que je vous décris, le drapeau de Savoie, etc. Et puis, le 1er juin de 1976, donc dans les 6 mois qui suivent, on voit s'installer à Eton le 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice, une compagnie qui venait de Vulmix, dans l'Ain. Hein, voilà. Et ensuite, en 1985, le 5 février, le ministre de la Défense, Charles Hernu, autorise la vente de ce fort à la commune. Hein, voilà. Alors, donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce bagne d'Eton. Il y a eu 30 ans de silence. Hein, vous-même, vous ne savez pas, probablement pas grand-chose. Moi, vous savez, je découvre les choses depuis 3 ans seulement. Ce que je vous raconte n'est dans aucun livre, dans aucun manuel, puisqu'il y a eu 30 ans de silence sur ce bagne. 30 ans de silence qui peuvent s'expliquer peut-être par la médiatisation des Jeux Olympiques d'Albertville et de la Savoie. Le fort est utilisé pour des concerts, pour une mise en lumière, etc. etc. Il y a eu derrière ce livre, Pierre Forte en Savoie, qui a intégré le fort tel qu'on le voit, mais finalement avec aucun renseignement pratiquement sur ce que je vous ai dit cet après-midi. C'est pareil pour Montpercher, je n'ai pas évoqué Montpercher. Montpercher est connu pour les colonies pendant plusieurs décennies, hein, jusqu'au début des années 70, bien entendu, colonies de l'armée. C'est un paradoxe parce que les enfants venaient effectivement s'amuser l'été, mais le reste de l'année, une partie des bagnards, et là j'ai plusieurs témoignages aussi, étaient utilisés pour des travaux forcés à l'intérieur de la cour. Alors qu'est-ce que c'est que des travaux forcés ? C'est les brouettes telles que je vous l'ai décrit. On part d'un point A, on creuse, et puis on va aller porter, renverser la brouette au point B. Puis quand c'est terminé, ben, on recommence et on rapporte le contenu au point A. Hein, voilà. Donc ça s'est passé dans la cour également de Montpercher. Là, on a plusieurs descriptions. On a plusieurs descriptions de marches forcées avec des chiens de guerre, des marches commando au lac Noir, et avec évidemment le supplice, je dis évidemment parce que tout le monde en parle, le supplice de la soif. Hein, les bagnards étaient interdits de boire. Enfin, il y a des gens qui décrivent l'ivresse. Hein, je parlais de gens tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des gens qui sont capables de décrire avec beaucoup de détails l'ivresse d'un certain nombre de gens qui séjournaient dans le fort et qui, par ailleurs, laissaient crever de soif les bagnards, entre guillemets. Une bouteille de limonade, c'était pour le chien. Et puis après, elle était balancée par-dessus le fort, et puis on disait aux bagnards, tu vas ramasser le verre cassé, quoi. Enfin voilà, c'était ça. Hein, l'ambiance, c'était vraiment... C'est vraiment ça, et c'est pour ça que je vous en ai parlé en différents termes tout à l'heure. Ce bagne d'étang, aujourd'hui, il est connu sur Internet. Hein, vous pouvez, comme moi, aller sur différents sites et vous en entendrez parler. Vous verrez, il y a différents réseaux sociaux. Hein. Et c'est comme ça, d'ailleurs, très souvent que je retrouve un certain nombre de gens, pas seulement, mais en partie. Et puis, j'ai envie de vous dire que depuis 10 ans, à peu près, 10-12 ans, le temps des explications arrive. Alors, c'est encore un peu confidentiel. Moi, je vous dis, jusqu'en 2015, je ne savais strictement rien de cela. Hein, ça reste assez confidentiel. Mais vous allez voir, avec toutes les publications que je vous montre, qu'en réalité, aujourd'hui, on a des éléments d'explication, de confrontation de sources orales et écrites, et on voit bien. Alors, qui a commencé? C'est quelqu'un qui connaît bien l'Algérie, c'est Benjamin Stora. Bon, on pense ce qu'on veut de ses travaux, bien entendu, mais c'est quand même un professeur à l'Université de Paris 13. Enfin, je dis ça parce qu'un certain nombre de gens disent qu'il est vraiment, il prend un peu trop le parti des uns par rapport aux autres, etc. En tout cas, il a piloté, c'est un scientifique, il est reconnu par l'Université française, il a piloté les travaux de Tramor Kemener, l'Institut en présence CNRS aujourd'hui, qui a fait sa thèse donc à Paris 13. Et voyez que vous retrouvez là un document que je vous ai déjà montré. Hein. Donc ça date de 2007. Hein, voyez. Alors, c'est resté, c'est vrai, confidentiel, c'est une thèse, mais vous retrouvez ce document qui a concerné Eton. J'ai parlé tout à l'heure de Jean-Charles Geoffrey. Son article a été publié en 2008. Hein, il est très documenté, d'ailleurs, donc dans la revue que j'évoquais. Donc, c'est Sciences Po. Et puis, il y a un très beau livre que je vous recommande sur les bagnes coloniaux qui s'appelle Biribi, le temps des bagnes de l'armée française, qui a été rédigé par Dominique Khalifa, qui est professeur à l'Université Paris 1. Ce n'est pas sa thèse. Il a fait sa thèse sur un autre sujet. Il a publié chez Perrin ce très beau livre en 2009, et il parle de Fort-Eton. J'ai eu un échange avec lui et je lui ai demandé pourquoi il n'était pas allé plus loin que la simple citation du bagne d'Eton, et il m'a expliqué que ce n'était pas son propos et que finalement il avait étudié l'ensemble des bagnes au 19e et au 20e siècle qui ont traversé donc ces deux siècles. Je voudrais vous citer également Michel Pierre, un très beau livre qui est sorti en 2017 chez Talendier, qui s'appelle « Le temps des bagnes ». C'est important que vous voyez les dates 1748-1953. Évidemment, une grande partie du sujet est consacrée à Cayenne, mais étrangement, vous serez étonné de voir que le fort d'Eton figure dans ce livre. Hein. Je l'ai retrouvé à plusieurs reprises, et c'est intéressant parce que vous voyez en couverture 1953, alors qu'à l'intérieur du livre, on va bien au-delà chronologiquement. Alors, pourquoi a-t-il fait ça? Je ne le sais pas, mais j'aurai peut-être l'occasion de m'entretenir avec lui. Donc, Sciences Po, hein, Paris, il a fait une très belle carrière au ministère des Affaires étrangères également. Il était présent au Festival d'Histoire de Blois récemment, je crois que c'était l'année dernière, me semble-t-il, avec Dominique Khalifa également. Ont-ils parlé du Fort d'Eton? Je ne sais pas, je n'y étais pas, mais c'est possible. Je voudrais également vous montrer qu'au cinéma, il y a des gens aussi qui réagissent par rapport à toute cette actualité scientifique que je viens d'évoquer. Vous vous souvenez tout à l'heure de 2007, eh bien, c'est la même année qu'un film historique est sorti en France et que vous pouvez acquérir aisément aujourd'hui, d'après un roman autobiographique de Ray Gisby, The Hill. Et c'est un film qui, à une époque où 007 était très connu, Sean Connery, c'est un film qui justement change complètement l'image qu'on peut avoir de cet acteur. Le film a été montré à Cannes en 1965 et il est ressorti seulement en 2007. Vous voyez que c'est probablement par hasard, pas un hasard. Et il a été nominé plusieurs fois et il a obtenu un prix, le prix du scénario du Festival de Cannes. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on est sur une réalité qui finalement n'est pas si éloignée des tons. Hein, quand on regarde ce film, c'est du noir et blanc, c'est une fiction, bien entendu, ça ne se passe pas à Tinfouchi, ça se passe en Libye, ça ne se passe pas au sortir de la guerre d'Algérie, mais ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous montrerai toujours une photo. Je voulais vous montrer aussi qu'on va bien au-delà du Festival de Cannes. Hein. Vous voyez qu'il y a eu un prix l'année suivante de la meilleure photographie, et regardez toutes ces nominations, hein, du meilleur film de l'année, du meilleur acteur, du meilleur scénario adapté, des meilleurs décors. Tout ça au moment où le bagne d'Eton existe. c'est quand même extraordinaire. Hein. Et bon, j'ai mis un accueil glacial aux États-Unis. Je ne vais pas vous faire une sociologie des États-Unis ici, mais ce n'est pas très étonnant, en fait. Bon, simplement, vous dire que le film est quand même sorti en 65 et qu'on est en plein bagne des temps, hein, et qu'il est montré à Cannes. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? Ben, regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de gens qui transportaient des rochers, etc. Et alors, le film est sorti en 2007, et vous voyez, je vous ai parlé à l'instant de 2017, le temps des bagnes. Et à Pessac, tout près de Bordeaux, le Festival international du film d'histoire programme le film The Hill, qui est une histoire vraie, hein, à l'origine. Et regardez ces deux images, un extrait du film et puis le dessin de Cabu. Hein, alors je sais que la route du lac Noir a été empruntée pour ces marches commando, etc. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même des traces écrites des anciens bagnards. Tous n'ont pas le don de la plume. Hein, bien entendu, tous n'ont pas le talent de Arsène Altemeyer pour écrire. Mais malgré tout, il y a longtemps, en fait, que la porte de la Maurienne est au courant de ce bagne. Ça fait au moins 10 ans, même si on n'en a pas beaucoup entendu parler. Hein. Pourquoi ? Parce que Bernard Cornet, que vous voyez à l'écran, que j'ai rencontré personnellement, que j'ai eu très souvent au téléphone pour bien comprendre ce qui m'était arrivé, a publié 2 livres. Il y a Jean-François Garcia qui, lui, a une toute autre vision de l'armée, une toute autre vision de la société tout court. Je suis un peu plus prudent avec Jean-François Garcia, qui est quelqu'un qui, finalement, résume beaucoup les choses, ramène beaucoup les choses à sa propre expérience. Et c'est une expérience, ce n'est pas une expérience d'un intellectuel, c'est l'expérience de quelqu'un qui a beaucoup souffert pendant son enfance, et puis qui finalement a été poursuivi par toutes ses souffrances. À Tinfushi, il a vécu Tinfushi, il a vécu également, il a vécu Eton. Il vit dans le sud-ouest de la France aujourd'hui, ce monsieur. Et puis il y a donc Arsène Altemeyer, ce manuscrit dont on a publié un extrait, et vous en comprenez maintenant les raisons. Donc Bernard Cornet, vous voyez, 2006, hein, et ce livre, il a été présenté à la municipalité. C'est un livre qui est resté très confidentiel, finalement. La presse n'en a pas du tout parlé. « Est-on militaire malgré soi ?» C'est un tout petit livre qui fait quelques dizaines de pages. Il a publié juste après un autre livre, en 2010, qui s'appelle cette fois-ci « Le bagne du fort d'Eton ». Et c'est la première édition. Donc ce sont des éditeurs très confidentiels, hein, finalement. C'est pour ça que l'opinion n'en a pas entendu parler, et moi le premier. Hein. Par contre, je vais vous surprendre, mais le deuxième livre, qui s'appelle le bagne du fort d'Eton, a été publié par un militaire. Il a été publié par un commandant de l'armée de terre. Et là aussi, ça en dit très long sur ce qu'a été la réalité du bagne d'Eton. Donc c'est un monsieur que j'ai eu au téléphone, qui m'a très bien expliqué les choses, qui m'a très bien dit ce qu'était l'armée pour lui, et pour lui, ce n'était pas le bagne d'Eton. Voilà. Également, donc Jean-François Garcia, ce livre qu'on trouve, il est assez confidentiel, mais on peut le trouver. C'est en fait l'histoire d'une vie. Ces gens, je vous disais tout à l'heure, ils ont besoin, on ne les a pas écoutés. On ne les a pas écoutés au moment des événements, il y a 50, 60 ans. Et aujourd'hui, au crépuscule de leur existence, ils ne peuvent pas partir avec ce secret. On le voit, je le vis, je le sens, ils m'appellent. Quand Arsène Altemeyer, il m'a reçu merveilleusement, alors qu'on ne se connaissait pas, et alors qu'il voulait presque me faire un procès la première fois, parce que tout simplement, il ne comprenait pas pourquoi j'avais fait acheter son manuscrit aux archives. Mais après coup, je lui expliquais qui j'étais, etc. Et finalement, ces gens ont besoin de parler, et ils en parlent beaucoup. Et il y a eu des traumatismes dans les familles, hein, énormes, et finalement, des familles se sont brouillées, etc. Et se rabibochent finalement. Au crépuscule de leur existence, finalement, en lisant ces textes, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs disent « ça y est, on comprend ce qui nous est arrivé, on comprend ce qui est arrivé à notre famille ». Voilà. Et c'est vrai aussi pour les petits cadres, hein, qui eux aussi compilent beaucoup d'informations. Et j'ai même un petit cadre qui, je crois, de mémoire, habite dans le département du Gard, donc quelqu'un qui était au 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice, qui a été envoyé contre son gré au fort d'Eton, qui en a été presque traumatisé, et qui a cherché à rencontrer, un des anciens bagnards. Et un de cet ancien bagnard a aussi écrit, mais n'est pas allé jusqu'à la publication. Je suis en possession de son manuscrit, qui est inachevé, bien entendu. Hein. Et ils se sont dit les choses. Ils se sont dit par écrit les choses. Hein. Et cet ancien bagnard a écrit donc à ce petit cadre. Hein. C'est aussi un document intéressant. Donc voilà l'ouvrage. Et puis, lorsque les anciens ne sont plus là, les enfants ont le souci de restituer leur vécu. Donc ici, vous avez Nathalie Massou-Fontenelle qui a voulu raconter l'histoire de son père qui a connu les bagnes coloniaux. Je ne pense pas qu'il soit venu jusqu'à Eton, mais il a au moins connu Tin Fushi. Hein. Et à Tin Fushi, plusieurs anciens bagnards disent qu'il y a eu des morts hein, et décrivent très bien dans quelles circonstances ça s'est passé. Lucien Palomares est mort, mais il a eu le souci. Donc lui, il a connu le Maghreb et il a vécu sa famille... je crois qu'il y a des ascendances hispaniques ou quelque chose comme ça. Ils ont vécu longuement dans le sud de la France, et puis ils ont franchi la Méditerranée, et pendant plusieurs générations, il était en Algérie, puis au Maroc. Et il parle dans son livre de son frère. Donc voilà le livre de Nathalie Massou-Fontanelle, qui est sorti en 2011, et l'année suivante, celui de Lucien Palomares, qui a été réalisé à compte d'auteur. Et donc ces gens, je vous disais, ont le souci de témoigner de leur vécu, de raconter leur histoire. Et Lucien Palomares, que je n'ai pas connu malheureusement, j'aurais aimé discuter avec lui, raconte l'histoire de son frère Pierre. Pierre Palomares qui justement a gravité dans l'entourage de l'OAS et qui a été traumatisé par un certain nombre de choses, et notamment par le bagne d'Eton. Hein. Il y a des militants, des gens qui étaient engagés également, qui parlent du bagne d'Eton. Alors, un roman, Robert Deleuze, dernier coup de théâtre, hein, c'est ça. Et dans ce livre qui est paru en 2012, on retrouve pratiquement, avec des noms de personnes un peu différentes, mais on retrouve tout ce que je vous ai raconté cet après-midi. Claire Brière-Blanchet était militante et venait manifester. Elle raconte dans son livre qu'elle venait, c'est sorti chez Fayard, en 2009, elle raconte qu'elle venait manifester dans les vignes de Fort-Eton pour faire sortir les bagnards. Hein. Son mari, elle était mariée à un journaliste, il est mort en Croatie au moment de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Et puis voilà, bon, j'accueille tout le monde, moi vraiment, j'ai le souci de faire venir des gens. Donc vous connaissez peut-être des gens, des têtes connues, ça c'était il y a quelques mois. Hein. Donc des gens qui ont le souci de franchir les portes, qui ont la volonté absolue de montrer à leur famille, leurs épouses, leurs enfants, etc., tout ce qui s'est passé, qui viennent avec des objets. Hein. La signe là, c'est Guy de Laval que je connais bien. Qui est venu expliquer que ce jour-là, eh bien, ils ont échangé les insignes, ils ne connaissaient rien au bagne, ils ne savaient pas ce qui se passait, mais il est venu, il a un souvenir très précis. La personne qui dirigeait à ce moment-là le camp d'Eton lui a dit ici, on consomme beaucoup de brouettes, hein, etc. Ben voilà. Donc, il est en capacité aussi de dire un certain nombre de choses. Et là, vous voyez quelqu'un avec son petit-fils. Et il lui montre ce camp. Alors, il n'y a pas de visite organisée, tout ça se fait un peu clandestinement, hein, mais en tout cas, tous ont été extrêmement surpris lorsque, moi je l'ai appris évidemment très tardivement, il y a seulement 2 ou 3 ans, et moi le premier, hein, j'ai été surpris par ce caractère émotionnel et affectif. Les gens arrivent, mais ils s'effondrent en larmes. Et parfois même, je les ai au bout du fil. Il n'y a même pas besoin de les avoir là. Et je m'en excuse, parce que parfois, c'est moi qui téléphone, parce que je retrouve les coordonnées. Et je m'excuse platement de réveiller des souvenirs comme ça. Mais c'est vous dire aussi le traumatisme que certaines personnes ont vécu après tous ces événements. Alors, voilà, c'est des lieux... Ouais, ce qu'il en reste, enfin vous connaissez mieux que moi, je pense, le fort d'Eton, hein, aujourd'hui. Et alors, au moment où ce livre allait paraître, ce n'était pas mon choix de faire un livre, hein, sur le bagne d'Eton. Ce n'était pas du tout mon choix. Simplement, au moment où Arsène Altemeyer a découvert que son livre, son manuscrit était désormais dans les collections des archives départementales de la Savoie, il a dit au directeur, écoutez, donc, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est moi qui suis allé d'abord en Alsace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ensuite, je me suis senti investi d'une telle responsabilité que je me suis dit, il faut que Arsène Altemeyer comprenne pourquoi son manuscrit est à Chambéry. Et donc, j'ai organisé une réunion à Troyes. Le 22 juin 2017, nous sommes allés à Chambéry, nous sommes allés rencontrer le directeur des archives et... il nous a très bien accueillis et Arsène Altemeyer lui a dit je vous demande de ne pas mettre mon manuscrit ouvert au public pour l'instant, parce que je veux raconter mon histoire et publier un livre. Et évidemment, le directeur a parfaitement respecté ce choix. Et donc, il m'a demandé de l'aider à trouver un éditeur, et c'est Yvan Slatkin à Genève qui a publié ce livre avec une préface d'un juriste qui, ça m'a beaucoup touché, c'est mon éditeur qui m'a fait cette proposition, Loïc Hervé, un juriste qui est membre de la commission des lois à Paris, au Sénat, et qui donc a préfacé ce... Et ça me touche parce que lui aussi a un rapport très précieux et précis avec l'armée. Je l'ai encore croisé le week-end dernier dans la marine. Je crois qu'il a fait l'IHEDN, Loïc Hervé, je crois. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très jeune, hein, qui a 35 ans. Et si vous lisez ce livre, vous verrez, il fait référence à Saint-Exupéry. Et tout ça m'a beaucoup touché. Hein, voilà. Alors l'éditeur avait prévu la sortie de ce livre. On est à Genève, donc c'était le Salon international du livre et de la presse. Et puis il organisait des choses comme ça. Puis moi je le sais faire, parce que voilà, c'était pas mon job d'être éditeur, c'était pas mon rôle. Et puis à un moment, je me suis dit, mais le livre va sortir et les habitants de la Savoie vont finalement, les gens des Tons, de la Maurienne, vont finalement découvrir cette histoire en librairie. Et là je me suis dit, c'est pas possible. Et quand il m'a annoncé qu'il me demandait un mois et demi avant d'être présent à Genève, j'ai dit non. J'ai dit, enfin j'y vais, mais à une seule condition, que les Savoyards sachent avant. Voilà, avant la presse et avant tout le monde. Donc j'ai appelé Madame Dodin, qui est maire d'Eton, et très gentiment elle m'a accueilli. Et très gentiment, elle a accepté d'organiser une rencontre avec les habitants. Et vous voyez, ça s'est passé le 20 avril. Et on a associé toutes les structures de la vallée de Fort-de-Maurienne qui voulaient bien participer, dont les Argelissants, c'est pour ça que vous voyez la musique. Et des musiciens ont accepté de témoigner et d'évoquer pour eux. Ça évoquait, ce bagne des tons évoquait des choses très fortes. Et donc ils avaient choisi également un répertoire musical adapté à cette rencontre. Et ensuite, il y a eu bien sûr au mois de mai, donc j'ai présenté ce travail aux médias à Genève, donc d'une part au Salon, et puis ensuite au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, parce que, donc là j'étais avec des journalistes, et puis voilà, l'idée c'était important aussi d'inscrire ce sujet dans une dimension d'ouverture internationale et sur un sujet large. Et il se trouve qu'à ce moment-là, à Genève, il y avait, je crois qu'elle y est toujours, mais je ne sais plus, je n'en aurai pas ma main au feu, mais il y a une exposition qui s'appelle Prison. Et c'est une exposition qui tourne actuellement et qui est présentée également en France. Elle sera présentée à Lyon, ou elle est déjà présentée à Lyon, mais si c'est le cas, ça fait quelques semaines seulement. Je crois que c'est au Musée des Confluences. Et puis elle va partir ensuite en Allemagne. Et le livre que nous avons sorti là, dans le groupe Yvan Slatkin, donc aux éditions Cabedita, accompagne en tout cas à Genève, accompagnait cette exposition. Voilà. Alors, tout ce que je vous ai dit, là, vous en avez eu la primeur. Je prépare actuellement un documentaire pour la télévision, hein, que vous verrez dans quelques mois, parce que j'ai vraiment ce souci, numéro un, de pouvoir rendre visible cette histoire, parce qu'il n'y aurait rien de pire, je pense, de cacher ça aux générations d'aujourd'hui et de demain. Moi, en tant qu'historien, je n'ai rien à cacher. J'apporte des clés pour comprendre, je confronte les idées. Au-delà de toutes les polémiques de comptoir, je crois qu'en tant que scientifique, il est très important d'apporter toutes les clés de compréhension à mes contemporains. Hein. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette recherche, et c'est pour ça que je l'ai présenté à l'université, et c'est pour ça qu'on en a parlé le jour de la soutenance de ma thèse. Donc il se trouve que je connais bien Philippe Allant, on a déjà travaillé sur un documentaire de travaux précédents là, qui était sorti chez Armand Collin, on avait travaillé pour France 5 il y a quelques années, dans l'émission Duel, que vous connaissez peut-être. Et donc, Philippe Allant a accepté très gentiment de se joindre à moi pour produire ce film. Ce sera un documentaire de 52 minutes qui va passer sur la chaîne Histoire et sur France Télévisions. Bon, ce sont les deux premières diffusions et il y en aura probablement d'autres par la suite. Hein, voilà. Donc, on a le souci aujourd'hui de rendre visible ce sujet en ayant recours à toutes les mémoires, à toutes les formes de mémoire. Donc je vais voir les habitants qui ont des choses à raconter.
Je vais voir les anciens bagnards, je vais voir le personnel d'encadrement, les appelés hein, du contingent. Je vais voir, malheureusement, je ne pourrai pas voir les militaires professionnels. Je sais que beaucoup, et c'est un peu pour ça aussi, c'est sans doute une des raisons qui ont fait qu'il y a eu ce grand silence. Plusieurs d'entre eux ont habité, en fait, à Étouron, habité Randan, habité Argentine, etc. Enfin, les portes de la vallée. Donc, voilà, il y avait des souvenirs qui ont circulé et très probablement ça a paralysé aussi pas mal les gens pour en parler. Et je l'ai bien perçu même encore au Salon d'Hermillon, hein. Les gens sont venus me voir et quand je disais « est-ce que vous accepteriez de témoigner, etc. », il y avait beaucoup de prudence, hein, il y avait beaucoup de prudence. Mais pour autant, les gens sont venus me voir, je ne les connaissais pas, hein, donc voilà. Mais malgré tout, je pense qu'il est très important aujourd'hui d'apporter des éléments de compréhension pour éviter tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les théories du complot, de je ne sais quoi. Il faut expliquer les choses simplement telles qu'elles sont, avec les éléments que nous avons. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté de me joindre à la publication d'Arsène Altemeyer. Je l'ai laissé publier son livre. J'ai été discipliné au Fort des Tons, le manuscrit. Il a tenu absolument à ce que le titre soit reproduit. Moi, je l'ai laissé. Et je lui ai dit, si vous voulez, j'apporterai une expertise scientifique au regard de ce que je sais hein, au moment de la publication. Et c'est ce que j'ai fait donc dans la deuxième partie de ce livre. Hein, voilà. Donc Arsène Altemeyer, c'est lui, c'est ce monsieur qui n'avait pas le droit de regarder le drapeau français pendant qu'il était au Fort des Tons, puisque ça faisait partie des règles. Il était interdit pour les bagnards de regarder le drapeau français. Donc il l'a installé chez lui. Il l'a tous les jours devant lui maintenant dans son jardin. Et il dit ceci dans l'appendice, si vous voulez, de son livre, il dit ceci. « L'aspiration de l'homme pour la justice demeure vivace dans les cœurs. Je ne permettrai jamais qu'on attente à ma dignité d'homme. J'ai connu l'esclavage au Fort des Tons, et j'ai ressenti là-dedans, dans ma poitrine, un grand mal, quand j'ai vu flotter au bout du mât les couleurs de ma patrie. Je ne le croyais pas encore. Alors j'ai rampé dans la boue. Alors j'ai creusé des trous en chantant l'hymne du fort. Alors seulement j'ai cru, alors seulement j'ai su, ab imo pectore. » Et c'est signé Arsène Altemeyer. Voilà, je vous remercie. J'étais un petit peu long, pardon.